reçu ce message dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
All right, c'est parti, on est avec vous jusqu'à 14h. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Pascal Caron-Vézina. Bonjour, Lam.
C'est rare, si tu fais quelque chose de mal.
Non, c'est juste que je suis pas de bonne humeur aujourd'hui.
Ah, ça commence bien.
J'ai décidé ça.
Mais qui t'a pollué l'humeur pour que tu pollues la mienne?
Martin Saint-Louis, coach du Canadien de Montréal, qui a pris une décision de marde pour ce soir.
Bon, laquelle?
Arbor Jacky, présentement, patine avec les réservistes.
OK, ça veut dire qu'il n'est pas...
Ce qui ferait en sorte qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas sur le jeu ce soir, alors que visiblement, si on se fie au dernier match, au niveau de la présence physique des joueurs du Canadien, là, c'était absent. Les gars se sont fait brasser comme pas possible. Puis j'aurais aimé qu'on mette un Arbor Jacky, pas nécessairement faire jouer 20 minutes par match, mais juste le laisser sur le banc pour assurer une présence si jamais quelqu'un a l'idée encore de donner un double échec d'en face de Brendan Gallagher.
C'est un goon,
comme
ça,
c'est arrivé au dernier match. C'est un défenseur défensif. C'est un gars qui essaie de faire des mises en échec des fois qui sont pas toujours appropriées, ce qui fait en sorte qu'il est en retard sur le jeu.
C'est le plus physique, mettons.
Ça crée des erreurs. C'est un très gros défenseur. Il est extrêmement fort. C'est un redresseur de tort aussi. C'est un gars qui est capable de jeter les gants. Mais sa présence, il impose le respect. Pas obligé de le mettre sur la glace, comme dans le temps. On faisait avec Georges Larac. Des fois, Georges Larac était malade, ne pouvait pas jouer. On le mettait pareil sur le banc, ce qui faisait en sorte que les gars de l'autre équipe, l'autre côté, ne savaient pas qu'il était malade, mais ils savaient que Georges Larac était sur le banc. Fait que s'il se passait de quoi, le gros Larac allait sauter sur la glace pour leur pétaille. Mais là, c'est ça. Martin Saint-Louis a décidé de faire patiner Jacky avec les réservistes. Donc, ce soir, possiblement qu'il ne sera pas là.
Et ça, ça te fâche.
Ça me fâche. Mais en même temps, je déteste voir mes joueurs se faire brasser. Voir Nick Suzuki, là, le capitaine du Canadien de Montréal, à terre, à se faire varger par le défenseur de Washington, sans que personne aille défendre Nick Suzuki. De voir Gallagher qui mange un double échec carrément en face, puis il n'y a personne qui a de l'air de s'en faire avec ça. Ils ont eu peur au dernier match, le Canadien, quoique ils se sont bien repris, parce qu'on a réussi à monter ça 2-2. Mais ce soir, le plan de match de Washington, ça va être exactement le même. Rentrer dans le tas. Dès que vous voyez un signe du Canadien, allez rentrer dedans, là.
Je sais pas s'ils font de l'écoute comme au football pour revoir les jeux et tout ça. Peut-être que ça va avoir aidé pour les joueurs de voir sur la glace comment ça a été versus le vivre, là. C'est comme quand tu t'entraînes, à un moment donné, tu penses que ton positionnement est bon, tu te filmes, tu vois, tu réajustes. Au foot, ils font ça beaucoup, beaucoup, beaucoup pour voir la capacité de leur jeu. Parce que tu as des joueurs qui sont bons à écouter ce qu'on leur demande. Tu as des joueurs qui sont meilleurs à l'analyse du jeu. Fait que dans cette faiblesse-là de chacun, tu l'ajustes avec les plays vidéo, là, finalement. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord. Ils disent qu'il pogne trop de pénalités et qu'il n'est pas de calibre en playoff. Donc, au final, ce serait peut-être une bonne décision.
Je l'aurais laissé sur le banc. Écoutez quand je parle. Juste le laisser sur le banc, sachant qu'il est là, si jamais ça brasse peut-être un peu trop, tu lui fais faire un chiffre. Mais effectivement, c'est un gars qui a pogné des mauvaises pénalités. C'est la raison pour laquelle Martin Saint-Louis n'a pas beaucoup confiance en lui. Mais écoute, Caulfield qui se fait brasser par le gros Ovechkin, puis personne ne va voir Ovechkin, c'est inquiétant, là. Si on veut gagner la série, parce que je pense que l'objectif, c'est de gagner, c'est de ne pas se faire surprendre par le gros physique des joueurs l'autre bord, là.
Il y a plein qui commentent, là. Je trouve ça le fun, c'est que ça donne le hockey en série en ce moment avec l'arrivée de Demidov et autres. Ça vous a redonné un petit souffle d'espoir, quoi que vous ne l'avez jamais perdu. C'est un peu surprenant à quel point vous ne le perdez jamais, ce souffle d'espoir-là envers le Canadien, peu importe ce qui arrive. Mais là, il semble un peu plus ancré. Puis ça fait en sorte que tout le monde commente à sa manière. Je trouve ça beau de vous voir aller. Ça vous rallie. Puis espérons quand même que ça ne vous fasse pas vous chicaner avec vos meilleurs chums, là.
On veut juste gagner.
Mais je sais pas, moi, dans cette série-là, je serais pas triste autant. Ben, c'est sûr, je suis pas une fan perdue du Canadien. Perdue dans le sens fan fini. Là. Pas fan perdu, je ne veux pas insulter personne. Mais dans les deux cas, cette série-là entre les Capitals puis les Canadiens, peu importe qui gagne, moi, je suis contente vu l'histoire des Capitals en arrière.
Ouais, bref, je sais pas qu'est-ce que Saint-Louis va où il s'en va avec ça. C'est si ce soir il gagne, ça va lui donner raison. S'il perd, il va se faire encore critiquer.
Il serait critiqué par
Mais n'en demeure pas moins qu'il doit vivre avec ça. Oui. Hey, commençons donc cette émission-là en jasant de ce qui se passe dans notre ville. Tu connais le groupe Blanchette, toi? Ils ont plusieurs restos, ils ont plusieurs bars. Un des frères Blanchette, de ce que je comprends, Vincent Blanchette, qui fait la manchette. Soit dit en passant, il n'a pas été déclaré coupable. incroyable, là, mais le poster sur le Journal de Québec frappe aujourd'hui. Là. On le voit clairement accompagné d'une pièce de viande et le titre, c'est « Ce gros joueur de la restauration à Québec arrêté pour achat de services sexuels et extorsion ». D'après moi, il ne doit pas avoir bien dormi des derniers jours.
Non, ça doit être assez compliqué. Et puis en plus, ben là, tu parles du Journal de Québec, mais moi, je regardais un peu partout là, après cette lancée de nouvelles-là hier soir sur des groupes comme « Are we dating the same guy? » Il est sorti, on mettait l'article, des gens qui commentaient. Ça
« Are we dating the same guy?
Ouais, » est-ce qu'on date la même personne, le même gars? Là? C'est des... t'sais, mettons, tu regardes ma page Facebook, mon compte Facebook, là, le nombre de choses auxquelles je suis abonnée, là, tu peux faire un... tu peux prendre un deux minutes, mais les spotettes de ce monde, les pages de ce type-là, les regroupements X, je les suis énormément, puis souvent, ça donne beaucoup d'informations sur le fume communautaire, là, sur la société, sur qu'est-ce qui jase, comment ça jase. C'est une page qui est exclusive aux femmes, donc il n'y a aucun homme qui peut... J'en avais beaucoup parlé avec Reg.
Puis vous mettez les photos de gars, c'est ça?
En chronique avec Reg, j'en avais beaucoup parlé. Écoute, moi, je ne contribue pas à ça. Même dans mes chroniques, je me disais, je me questionne beaucoup sur la création de cette page-là.
Ouais.
Je la trouve particulière parce que des fois, bon, c'est des allégations un peu comme au MeToo, qu'on connaît pas l'histoire, il y a une version des faits. Et ce n'est pas que à caractère sexuel, c'est beaucoup... plus de la défense de femmes entre elles, du genre « j'ai trouvé cette pince-là dans ma chambre, dans la chambre de mon chum, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ici? »
OK, c'est des gars qui sont un peu volages.
Ben je dirais, honnêtement, il y a, selon ce que je vois, les dires sont qu'il y a beaucoup de gars croches là, qui se pensent sur le marché en étant clairement peut-être exclusifs dans la tête de celles qui fréquentent. Là, ou encore...
Vous avez des groupes d'hommes, je ne savais pas.
Ben, comme je te dis, j'ai quand même envie de me dissocier dans le sens où je la suis parce que quand elle s'est créée, j'étais comme « qu'est-ce que c'est ça? » Puis j'en avais parlé en chronique. Puis dans le temps que je faisais beaucoup de choses de même avec l'équipe du matin. Puis je suis divisée, tu sais.
Tu m'as souvent dit que Québec est une grosse couchette, là. Puis je t'avais parlé de mon ami qui a une application de rencontre. Qui faisait un voyage avec ses trois amis de filles à Montréal. Parti de Québec, s'en allait à Montréal. Puis dans le char, ils se sont rendus compte que 3 sur 4 fréquentaient le même gars.
Mais je t'avais parlé.
En fait,
aussi
il jasait avec le même gars. Je
d'un
pense que c'était
gars,
plus ça l'histoire.
qui s'est inventé une vie carrément, puis utilisait Strava. Puis ça, c'est vrai, là, c'est dans la région de Québec. Le gars utilise Strava pour pister ses courses. Là, fait que quel kilomètre, dans quel secteur t'as couru combien de temps. Puis le gars avait 2 vies dans 2 villes. Puis il disait qu'il était militaire à ses 2 conjointes avec lesquelles il y avait des maisons, là, des engagements du genre, tu te dis crime, je suis dans un couple qui est vrai. Là.
Ouais.
Tu t'achètes une maison avec quelqu'un, il me semble. Bon. Puis, il me semble, mais tu sais, il y a beaucoup qui pourraient me faire parler dans le vide. Là. Mais le gars avait dit à la fille, mettons, de Québec, je m'en vais en mission, faut que j'aille m'entraîner à X place. Mais il avait décidé de courir avec son Strava ouvert, puis tout le monde est abonné au Strava de un et de l'autre là, dans cette communauté-là. Puis elle avait très bien vu qu'il venait de courir dans la ville de Québec là, ou dans la ville de X.
Des fois, je me dis que ma vie est compliquée, mais elle sera jamais autant compliquée que quelqu'un qui a 2 fréquentations comme ça.
Mais il faut vraiment... T'sais, souvent,
avec des vies cachées.
Je pense que c'est des gens qui sont probablement... supérieurement intelligent aux autres, là, Yannick, là, pour faire ça. Sauf que l'affaire, c'est que c'est pas souvent ceux qui sont qualifiés pour être supérieurement intelligents aux autres qui le font. Donc, t'as des phrases comme celle-là, puis en même temps, je veux dire, l'intelligence, là, ça existe, mais ça peut être utilisé à bon et à mauvais escient. Après, c'est à vous de choisir, là. Il y a des gens extrêmement intelligents qui ont créé des drames terribles. Mais tout ça pour dire que cette page-là, dans les dernières heures, l'article du Journal de Québec avec le visage de Vincent Blanchette, il est apparu, puis il y a des gens qui commentaient là-dessus. Pour certains, c'était « je comprends pas, je l'ai eu comme patron, ça a très bien été, il n'y a pas ce profil-là. » Pour d'autres, c'était « c'était le temps que ça sorte, etc. » Fait que c'est des allégations des gens qui parlent sur la place publique. Mais effectivement, c'est un homme très bien connu dans la restauration. On ajoute dans l'article, par contre, que Vincent Blanchette et ses co-travailleurs, les gens avec qui il était copropriétaire dans le passé du groupe Blanchette, en 2023, se sont séparés. Donc, ils ont eu des différents moraux et d'affaires. Quand on vient qu'à faire une enquête comme ça, souvent, les journalistes vont se mettre à appeler les proches de la dite personne. C'était un consortium familial. Ils avaient lancé La Petite Grenouille, les restaurants Taizone, les restos bar Shaker, cuisine et mixologie. Puis c'est ça, en 2023, on a mené à la scission de l'organisation. Vincent Blanchette est reparti. Blanchette Morancy, c'est un autre groupe, une autre franchise avec d'autres bassins de restaurants. Puis pour le reste, ben, ils ont continué leur activité de leur côté.
C'est quoi les restaurants de Blanchette actuellement?
Ben, c'est le groupe Blanchette-Morancy, il n'est pas seul. Puis je trouve ça important de le dire, tu sais, parce que je veux dire, tu n'es pas le résultat de quelqu'un que tu côtoies. Si jamais il y a allégations qui se rendent au criminel ou autre pour Vincent Blanchette, mais en ce moment, c'est restaurant Sushi X, Archibald, Bosny, Poulet Royal, Steak Avenue, puis Mexicanos. Mais si ce n'était que moi, j'aurais pas nommé. Pour cette raison-là. Mm-hmm. Tu sais, si je fais quelque chose qui n'a pas de bon sens ou tu fais quelque chose qui n'a pas de bon sens à un moment donné, c'est vraiment pas notre genre, pas du tout, mais... t'es pas responsable de mes comportements parce que tu travailles avec moi.
Le Journal de Québec aurait dû pas le dire, c'est ça?
Le seul choix éditorial à tous et chacun. Moi, mon choix éditorial, ça n'aurait pas été de les nommer.
Parce que
au même titre
pas...
que je nomme trois fois par nouvelle le nom d'un pédophile.
Il est pas coupable de rien jusqu'à maintenant. Ce qu'on parle, c'est d'allégations. Il a été arrêté la semaine dernière à l'aéroport de Québec. Il revenait de voyage de Floride. Et ce qu'on dit, c'est que il aurait partagé des photos intimes. Il aurait fait l'achat de services sexuels. Il aurait tenté d'extorquer quelqu'un. Là. Donc, il y a une femme qui aurait été en dette avec lui, puis il lui aurait proposé, puis c'est encore au conditionnel, là, tant aussi longtemps que le juge n'a pas dit il est coupable ou pas, mais il lui aurait proposé de descendre sa dette moyennant des relations sexuelles.
Mm-hmm. Du sexe, oui.
Ouais.
Quel j'ai... qu'il soit.
J'ai l'impression de revenir dans le roi de la quille. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Là. C'est la concierge de l'édifice qui demandait au roi de la quille de coucher avec elle pour diminuer son loyer,
ouais, mais
payer son loyer.
Le roi de la quille étant un film, j'ai vraiment l'impression que c'est arrivé souvent aussi.
Non, mais ça fait mon
oncle
un peu. Là.
Ben, ça...
Dans la réalité aussi.
Ben, moi, je suis sûr que c'est arrivé. Voyons, Yannick, les services sexuels contre...
Moi, j'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Là,
à c'est-à-dire la
un
base.
De mes chums qui dit « Hey, Yann, il y a un gars ou une fille qui me doit ça, là, je vais lui demander de coucher avec. » Hey, il faut être effronté. Là.
Yannick,
si
c'est
ça,
la
c'est
base
vrai.
Même de la prostitution au départ. Oh. Je te donne de la dope, tu me dois de l'argent parce que je te donne de la dope. Paye ta dope par le sexe si tu n'as pas d'argent. Je veux dire, c'est les balbutiements du proxénétisme. Mm-hmm.
Puis Vincent Blanchette dit quoi, lui? Parce que les journalistes ont tenté de le rejoindre.
Oui, bien pour l'instant, il dit que la vérité va sortir, qu'il n'est pas coupable de ce qu'on allègue et qu'il y aura dans le temps, avec son avocat, assez de moments pour prouver sa vérité et la vérité que lui conçoit.
OK. À suivre.
À suivre.
Autre chose?
Oui, dans le monde de la construction maintenant et des logements à Québec, il y a un important ralentissement, il faut le nommer. Donc, l'année 2024, qui est hors norme en matière de construction de logements, dans cette région qu'on connaît, ben, c'est la nôtre, c'est la ville de Québec qui est plus particulièrement reconnue pour ce ralentissement-là, des mises en chantier pour mars 2025. Donc, du côté de la... C'est un recensement, ça s'appelle RMR. C'est la région métropolitaine de recensement de Québec qui indique qu'il y a une baisse de 22 % des mise en chantier en comparaison avec le même mois de 2024, c'est beaucoup. 22 % là, c'est pour toute la grande région de Québec. En mars 2024, on était à 549 projets. Maintenant, on est à 427, donc 39 chantiers qui ont été lancés le mois dernier contre 212 à pareille date l'an dernier. Bon, baisse de 82 % pour le nombre de mises en chantier, si on l'évalue avec le nombre de projets. Mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est important à vérifier, puis on va devoir justement le faire pour les prochains mois. Le pape fait encore jaser. Il est décédé pendant le congé de pape. Parce que si vous avez manqué ça, je ne sais pas dans quel terrier vous étiez, clairement, petit lapin, sortez-en, parce que c'est partout. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand on se met à chercher un Québécois qui avait 2 secondes à Rome dans un genre de voyage auquel il s'arrêtait, puis qu'on l'a contacté, puis on voulait savoir qu'est-ce qu'il pensait du pape. Cependant, on s'est rendu compte que les Québécois croyants, ben, ça en est une bonne masse ici au Québec. Là, où ça vient intéressant de savoir que la majorité des Québécois sont catholiques, selon Martine Biron, et voilà pourquoi on en parle, et voilà pourquoi c'est encore intéressant. C'est tout ce qui concerne la politique. Moi, je sors de l'article qu'on nous a proposé aujourd'hui, mais je me rattache à ce qui se jase dans l'Assemblée nationale. Souvent, c'est une technique pour faire voter en conséquence. Quand vous regardez ça pan-canadien au fédéral, le fait de savoir la proportion de gens catholiques va mener beaucoup la table politique d'un parti. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Comment est-ce qu'on va faire valoir nos points? Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant? Et ça, moi, ça me fascine encore en 2025. Pas que les gens soient croyants, chacun choisisse, mais que ça a un aussi grand poids dans la vie des gens et dans nos élections. Sinon, on s'en va faire un petit tour du côté de Montréal. Je t'explique pourquoi. Ça regroupe tellement de choses qui se passent pour tout le monde. Trafic d'armes à feu. Il y a un gestionnaire de garderie qui a réussi à importer 6 pistolets semi-automatiques via la frontière. Comment ça s'est passé? Il est allé à la colle, il a attendu, puis il y a un Américain qui a pitché ses 6 guns l'autre côté de la frontière canado-américaine. Point. Voilà l'histoire. Voilà la facilité avec laquelle cet ancien gestionnaire-là de garderie a reconnu même l'histoire et avoir importé des armes à feu fantômes là, avec l'aide d'un Américain. Et ça s'est fait par-dessus la frontière à Montérégie pour entrer au Canada. Là, vous dites, bon,
il y en a qui pensent que c'est super facile, là, mais c'est pas évident de le faire. Il y a de la surveillance, il y a des terrains qui sont assez difficiles à franchir. Il y a des drones aussi, autant du côté des Américains que des Canadiens. Il y a des lasers qui sont directement dans la forêt. Puis s'il y a quelque chose qui semble d'être un être humain qui est aperçu, bien, tout de suite, il y a une patrouille qui est amenée là. Tu sais, moi, ça m'a surpris de voir la fameuse bibliothèque là, qui est sur la ligne canado-américaine, mm-hmm. là, où tu rentres du bord canadien, tu peux aller choisir un livre puis sortir sans rencontrer aucun douanier de l'autre bord du côté américain.
Et donc passer ce que tu veux.
Fait que ce bord-là, tu sais, il y a bien des gens qui l'ont utilisé pour faire transférer de la drogue puis des armes. Là. Il y a eu des articles d'ailleurs à cet effet, mais passer aux douanes là, de façon illégale, c'est pas si facile qu'on pourrait le penser.
Clairement, lui, par un bel après-midi de juillet 2023, il a réussi à le faire de façon assez simple. Il y avait peut-être un petit endroit qu'il connaissait versus les endroits qui sont surveillés parce que, bon, l'Américain n'est toujours pas identifié, mais il fait partie de ce plan-là. Il a lancé la petite caisse noire, puis il savait là-dedans 6 pistolets semi-automatiques. Mais c'est dans un secteur agricole, donc un chemin qui se termine en cul-de-sac à la frontière, puis qui est délimité par des blocs de béton. Alors, si vous pensez que cette sécurité-là fait en sorte que Stacy Saint-Pierre s'est dit « Moi, je le ferai pas ». Ben non, 7 minutes plus tard, il est allé récupérer le caisson dans le rang Edgerton à la colle. Maintenant, il est identifié. J'ai l'impression qu'il va avoir quelques visites dans les prochaines heures. C'est pas déjà fait. Puis il a rencontré, par contre, des policiers de la GRC en revenant. Puis il se dit « Merde, j'ai pas eu le temps de me débarrasser de mon butin. Comment je vais faire? » Les patrouilleurs l'ont intercepté. Ils ont parlé. Il a juste eu à mentir. Saint-Pierre a juste dit « Je suis allé là pour uriner », puis on l'a laissé aller. Donc, on n'était pas au courant, bien sûr, qu'il y avait des armes, mais on l'a laissé aller. Puis un deuxième gendarme qui a remarqué la présence du caisson noir à environ 10 pieds de la frontière. Puis là, le contenu était dispersé dans les herbes longues, puis voilà comment on a réussi à être aux trousses de Saint-Pierre.
Il y en a qui se compliquent la vie. Là. J'ai su qu'à Montréal, tu es capable de te procurer une arme à feu pour 100$. 100$. Ça peut être une arme à feu qui est transitée par par les réserves ou ça peut être une arme à feu qui a été bâtie avec une imprimante 3D.
Ouais. Puis ça, tu dis 100$, là. La bâtir le corps, mettons, c'est moins que ça. Si en plus tu la détiens ou c'est un de tes amis qui le détient de l'imprimante. Puis ce qui te reste à acheter, en fait, c'est le protocole de genre de pulsion de carte là, que tu achètes sur le marché noir puis tu la plugues sur ton gun.
Puis ça a-tu été compliqué de faire ton arme, Pascal?
Non, mais c'est parce que j'ai vraiment fait de l'enquête là-dessus il y a quelques années. Même on avait infiltré le dark web et tout ça. Ouais. Ouais. Puis c'est dans cette fameuse enquête-là qui débordait.
Puis elle est où, cette arme-là, Pascal?
Bien, on l'a plus, là, tu comprendras. On s'est débarrassé.
L'avait revendu.
Mais tu sais, mettons, quand je faisais ces affaires-là, j'étais aussi... Je me faisais appeler beaucoup par les policiers.
Ah oui, t'étais surveillé.
Pour donner de l'information.
11h55, si vous avez des choses à nous dire, Denis Gravel s'en vient dans les prochaines minutes. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Il y aura Valérie Gaudreau aussi qui va venir faire son tour, la chroniqueuse du Soleil. Mon chum Louis Gauthier, chroniqueur international, va venir nous parler du fameux G7. Et Martin Perizzolo, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Ben, c'est un humoriste. Il a fait plusieurs choses là, dans le monde du spectacle, mais il revient à Québec au Théâtre Petit Champlain. Donc, il va venir faire son tour en studio vers les alentours de 13h15. On revient.
Marceau.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Denis Gravel d'en place. Hier, lui, il avait son gilet des Capitals de Washington. C'est une très mauvaise journée pour moi puisque j'ai fait ma tournée tantôt des différents sites sportifs à savoir qu'est-ce qui se passait avec mon Canadien de Montréal contre tes Capitals de Washington ce soir. Et j'ai vu Carter Jackay ne serait pour l'instant pas de l'alignement parce qu'il a pratiqué avec les réservistes ce matin. Ils sont gros, l'autre bord! Font peur! Sont gros, font peur!
C'est surprenant de voir qu'il n'y a aucune modification à l'alignement, puis en même temps, ça veut dire que Martin Saint-Louis a aimé ce qu'il a vu malgré la défaite, ou il en a vu suffisamment pour croire aux combinaisons de trio qu'il a faites et aux joueurs qu'il a sa glace présentement. C'est un pari qui va rapporter ou qui va le couler, hein. Je veux dire, ultimement, si on prend exactement le même line-up, qu'on utilise encore Laine et Demidov sur le même trio, que Jacky n'est pas là, puis que ça se termine, je sais pas, moi, 5-1, 6-2 pour les Capitals, la pente va être dure à remonter, là. Je pense pas que contre la meilleure équipe actuellement dans la Ligue nationale de hockey, tu peux te permettre de perdre 0-2 en début de première ronde. Là, parce
ça a
que...
été tough, Denis, la première période. On s'est fait brasser comme pas possible. Puis moi, les images là, de mon capitaine, Nick Suzuki, qui est à terre et qui mange des coups de bâton, il n'y a personne qui va le voir. Un des meilleurs snipers chez le Canadien, c'est Cole Caulfield qui a rencontré un train en Alexander Ovechkin. Il n'y a personne qui a embêté Ovechkin par la suite. Tu sais, Pezzetta n'est pas là. Pezzetta essaie de faire ce qu'il peut. C'est pas le meilleur joueur du Canadien.
Non, vraiment
loin
pas.
De là, mais je veux dire, quand il est là, il essaie de surveiller un peu ce qui se passe, mais je pense que, mettons que Saint-Louis déteste Jacky, et je pense que c'est le cas, là, parce que Jacky fait énormément d'erreurs. Puis
des punitions épaisses.
Il veut trop en faire, exact.
Surtout, puis dans le cas des Capitals de Washington, tu veux pas lui donner de power play.
Laisse-les sur le banc. J'écoutais Georges Larac hier à Montréal qui disait, ben moi, c'est arrivé des fois où j'étais malade, là, je me vomissais les intestins, et le coach me disait, tu joueras pas à soir, mais tu vas être sur le banc.
Mm-hmm.
Puis Larac, il comprenait pas trop, mais en même temps, avec du recul, il dit « Juste ma présence sur le banc faisait en sorte que les gars l'autre bord, ils étaient un peu plus doux puis ils s'en permettaient peut-être un peu moins quand j'étais là. Ils me voyaient. Que, s'il y avait un problème, ils savaient que je pouvais embarquer pour aller les voir. »
Je pense que Larac était plus imposant que Jacky. Je pense que Larac passait un message physique et visuel plus que Auber Jacky. À mon humble avis, là...
Larac, c'est une force de la nature. Il avait raconté que c'était jamais entraîné pour être bâti
ouais,
de même.
Ouais.
Il était de même,
c'est
il était tough de même.
C'était une armoire à glace. Dans le cas de Jacky, écoute, si Martin Saint-Louis l'a pas inséré dans l'alignement, alors que moi, ce que je vois, c'est un consensus depuis hier. Là, tout le monde l'habillerait puis tout le monde le ferait jouer. J'ai pas joué longtemps au hockey. Ça se parle-tu un peu d'un vestiaire? Je sais qu'il y a une équipe d'entraîneurs, que le bureau sont à part et tout ça, mais tu sais, quand t'as une bonne relation avec ton capitaine, tes assistants, tes vétérans, ils doivent venir te voir, puis ils doivent l'adresser, tu sais, genre, « Hey, on aurait besoin de Jacky » ou « Hey, ce qui s'est passé à dernière game, là, ça se repassera pas une autre fois, fais-nous confiance.
Ouais,
Fais-nous confiance, on va faire le travail. »
Dans un genre d'hockey, c'est un peu plus pyramidal. Les nouveaux vont parler aux anciens, les anciens vont parler au capitaine, le capitaine va parler aux assistants coach et peut-être même le coach. Là. Mais je pense que c'est l'ego de Martin Saint-Louis. Il veut
peut-être.
Que ses gars apprennent peut-être à la dure, comme lui a appris à la dure. À grosseur qu'il y a, on s'en parlait hier, à grosseur qu'il y a, Martin Saint-Louis, il en a mangé des coups là, d'un bord et de l'autre. Puis, tu sais, quand il regarde notre petit défenseur de 170 livres, il se dit, ben, tu sais, il faut qu'il mange des coups pour qu'il apprenne à se protéger. Puis, il essaie de bien se protéger, mais il n'en demeure pas moins que quand tu concèdes 50, 60, 70 livres, l'autre de côté, quand il t'arrive dessus, c'est tough, là.
On parle à Pierre-Aude cet après-midi à 16h parce que Pierre s'en va en vacances. Je sais que vous vous ennuyez de lui en série, moi aussi. D'ailleurs, Pierre nous avait raconté que la semaine de la date limite des échanges, c'est Suzuki qui avait pris sur lui d'aller parler à Martin Saint-Louis puis d'aller parler à Kent Hughes pour dire « Touchez pas à l'équipe. On veut garder ce noyau-là, on veut garder cette équipe-là, on veut garder cet équilibre-là, puis on veut faire les séries avec cette gang-là. » Et il semblerait que la direction et les entraîneurs ont décidé de l'écouter. Est-ce que c'est Suzuki qui a callé une shot entre le match 1 et le match 2 de dire « Gardons la formation comme elle est, puis on va se défendre? » Il n'y a peut-être pas juste Martin Saint-Louis qui n'aime pas Jacky là, dans le vestiaire. Là. Peut-être qu'il a pris trop de punitions stupides. Puis peut-être que la clé contre les Capitals, c'est de ne pas leur donner de power play. Regarde, je le sais pas. J'ai hâte de parler à Pierre cet après-midi, par exemple, puis de le tester là-dessus. Il y a sûrement une take, il y a sûrement une vision qui va différer de celle de ben du monde. Parce que, à la base, je suis un peu d'accord avec tous vous autres. Ton gros gars, ton shérif... Je l'habillerais aussi. Là. Il est intimidant là, dans les publicités de La Belle et La Bœuf et tout ça. Mais
mais tu sais, tu veux pas qu'il te cause de problèmes sur la glace?
Ouais.
Fais juste le laisser sur le banc.
Ou t'avertis. Si tu pognes un 2, ton mandat, c'est d'entraîner au moins un autre avec toi. Sans ça, le reste de la période, effectivement, tu vas le passer sur le bout du banc. Mais le Canadien était à bout de souffle après une période. Tu peux-tu te permettre de prendre un gars puis de le laisser au bout du banc dans ta rotation, dans tes changements, puis ainsi de suite. Écoute, je sais pas. C'est peut-être juste une affaire d'entêtement aussi. J'ai hâte de voir la performance du Canadien ce soir, surtout les premières minutes du match.
Okay, c'est parce que juste, je t'annonce juste que ce soir, les Caps vont être encore plus lourds que le dernier match.
Probablement.
Là, parce qu'il y a un centre qui arrive qui s'appelle Alexei Protas,
ouais,
qui est à 6'6", 250 livres. C'est plus de viande encore que le dernier match. Fait que j'espère que les gars se sont concertés et ont dit « Regarde, on est capable de gagner avec l'équipe qui était là au dernier match. Puis on n'aura pas besoin de Jack Eye, mais n'en demeure pas moins que je l'aurais habillé pareil parce que je veux pas que mes gars se fassent brasser comme ils se sont fait brasser avant hier. Ouais. Là, je suis en bosse à soir puis là, j'ai pas accès à la game.
Oh, ça, c'est tannant, ça.
Ce qui fait en sorte que par texto 418-971-1021, si vous avez un truc pour que je puisse voir la game ce soir.
Ah, c'est bien ça.
Mais
c'est
t'es wise. Avec tes gars, ça veut dire que c'était en boss.
Ouais, j'étais avec
mais
mes gars.
Ils vont vouloir la voir aussi. Tu peux pas aller dans un genre de cage au sport?
Ben oui, mais c'est...
c'est l'école. T'as pas un service câblé qui...
Mais je pose la question, est-ce qu'ils entendent Pascal là présentement?
Parce qu'ils vont trouver l'idée intéressante.
Ouais, ils ont de l'école.
T'as pas un service câblé qui te permet de regarder ça sur un portable ou sur un cell à distance? Non?
Non, je suis très...
By the book.
Mais les gars, c'est une bonne idée aller dans...
Ah non, je suis pas très by the book. Là, mais la façon dont je t'ai manché chez nous, là, c'est une clé là, que je rentre en arrière de ma télé. Là. Je paye un abonnement.
Ouais.
J'ai tous les postes du monde entier.
Ah ouais, on le sait lesquels.
C'est parfaitement légal.
Mais tu peux pas les amener avec toi. C'est ça qui arrive.
Hey, c'est vrai, je pourrais peut-être amener la clé.
Je pense
moi.
Que oui, honnêtement.
Ben oui.
C'est juste que la madame à la maison sera pas contente.
La clé, elle va marcher partout si tu vas brancher. Là.
Eh oui.
Ouais.
Mais elle a pas un rendez-vous comme le tien ce soir, probablement.
Non, c'est ça.
Puis en même temps, elle ira ses autres télés. Ah, mais... tu passeras au Superclub, il loue un film.
Ah, ben...
par texto, hein, 418-971-1021, si vous avez un lien, là, je dis ça comme ça, je le dirai pas à personne. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, Denis, d'ailleurs, c'est le pape, là, c'est un éclipse médiatique hallucinante. Puis je
trop
me
blanc.
Dis, pendant qu'on gère le pape présentement, là, y a-tu des affaires qui se passent qu'on couvre pas?
Sûrement. J'ai tellement, je comprends pas ce que nos élus vont faire là, en partant. C'est quelque chose qui me bogue énormément, alors qu'on brandit l'étendard de la laïcité, puis on s'en va se zigner après la religion catholique au Vatican. Je comprends rien là-dedans. J'espère que ces gens-là, au moins, sont conscients de la grande contradiction. La couverture de l'événement me trouble aussi. C'est toujours bien rien que le chef d'une religion parmi des tas d'autres religions. Je comprends pas mais l'importance qu'on donne à ça. Même hier, dans le retour, Véro en parlait des nouvelles. Je venais comme agressif puis réactif. Puis ça vient me chercher. Je trouve ça...
Voyons, Satan.
Non, mais c'est parce qu'on est... les autres religions, puis on... OK, la religion catholique, par exemple, on ouvre nos bulletins de nouvelles avec ça, on donne de l'importance à ça. Soudainement, notre belle laïcité là, est dans le bac à recyclage parce que, tu sais, le pape est mort.
Mais admettons que je suis un gars de marketing puis de communication puis j'ai un poste de télé. Là.
Ouais.
Puis je regarde qui m'écoute.
Les vieux.
Est-ce que je mets le pape ou pas?
On en jasait beaucoup, Yannick et moi, puis on parlait de la politique aussi.
J'ai un genre d'entêtement à la Martin-Saint-Louis. Moi, je le mettrais pas, le pape, même si les vieux vont écouter un autre poste. Là, je le parlerai d'élection fédérale, puis je trouverais autre chose.
Les codes d'écoute, c'est le nerf de la guerre. Ils ont fait un choix éditorial aller. Ouais. Radio-Canada était là-dessus, TVA était là-dessus.
Mais
puis...
tu disais que tu parlerais des élections fédérales. Les élections fédérales sont, somme toute, surtout pan-canadiens, basées énormément sur la religion catholique aussi. Là. Dans ce qu'on parle, nous, au Québec, on est un petit peu moins touchés, quoique Martine Biron dit en ce moment qu'il y a une grande majorité de Québécois qui sont catholiques. Oui, mais ils sont-tu parce que les parents ont obligé de faire le baptême, la première communion, la confirmation, puis il y en a qui vont se marier, mais ils n'écoutent pas trop le discours du pape.
Ce que Martine Biron aurait pu dire, c'est une majorité des gens qui ont voté pour la CAQ sont catholiques et très vieux. Ils sont encore très proches de leur religion.
Puis au Canada, là, les gars, c'est vraiment, vraiment, vraiment présent encore. Là.
Ben. Moi,
il y a beaucoup de choses politiques basées là-dessus.
Moi, personnellement, je trouve ça très particulier et très bizarre de vouloir interdire les signes religieux dans nos écoles et dans les lieux publics, d'une part, puis d'envoyer des ministres aux funérailles du pape. Je trouve que ça va complètement à contresens. Puis je trouve ça, je vais le répéter, je trouve ça très particulier qu'on couvre ça avec plus d'importance qu'une campagne électorale. La politique, c'est de l'actualité. Le chef d'une religion qui meurt.
Pfff.
Faudra en revenir collectivement.
On le descend-tu à la gang? Là? On est une petite secte là, le midi là, à écouter le petit stop puis à jaser ensemble.
Faudrait
avec
que tu finisses vite ta phrase parce que la date est louche.
Les gens qui nous textent, 418-971-1021. À la gang, là, qu'est-ce qu'on pense d'abaisser la limite à 0.05 pour ce qui est de l'alcool au volant? À gang, parce qu'on est la seule province, à moins que je me trompe, Pascal, on est la seule province à 0.08. Ouais, ailleurs, ouais. Au Canada, on est à 0.05. Puis encore une fois, ça revient dans l'actualité. Là, on accuse Geneviève Guilbeault et François Bonnardel d'être responsables de certains morts là, à la grandeur du Québec. Là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pogné, qui étaient à 0.07 puis qui ont tué du monde sur la route. Là.
Mais légal ou pas, on constate le taux d'alcool après l'accident. Donc, ça revient au même. Je trouve que l'argument est très facile. On peut accuser Geneviève Guilbeault de bien des choses et on s'en prive pas d'ailleurs, mais dans ce dossier-là, je trouve qu'on tourne les coins ronds. Personnellement, 0.05 ou 0.08, à partir du moment où c'est la norme et que tout le monde est au courant, tu le sais-tu, toi, dans ta consommation, quand est-ce que tu es, mettons, à 0.06 ou à 0.07 ou à 0.09? Moi, j'en ai aucune idée.
Moi, j'ai réglé ça assez vite, là. Il y a un de mes chums très proche de moi qui s'est fait prendre pour alcool au volant. Mm-hmm. C'était un gars qui travaillait sur la route. Il faisait du Québec-États-Unis. C'était sa vie. C'était le camionneur.
Ça casse sa job.
Du jour au lendemain, c'était le seul qui travaillait dans sa famille. Fait que du jour au lendemain, il a mis sa famille dans le pétrin. Il pouvait plus travailler. Ça a été une catastrophe pendant un an. Il y a eu une séparation aussi parce que la dame, bon, il y a certains bouts qui ne respectaient plus ça, puis à un moment donné, problème d'argent, tout ça, se sont séparés. Ce cas-là proche de moi, Denis, a fait en sorte que quand je bois, là,
prise de conscience,
c'est chez nous. Ouais. Ou quand je bois quelque part, c'est parce que je vais coucher là.
Mm-hmm. Puis moi, quand je doute là, sur mon point quelque chose, je m'en vais me caler deux shots de plus, puis je doute plus.
J'ai de l'air du gars le plus plat de la place là, parce que de un, je prends une Coors Light, puis après ça, je prends juste la batte 0.5, ces affaires-là. Là. Mais au moins, je suis sûr, certain de pas gâcher l'année qui va suivre shaker. Ou encore tuer quelqu'un.
Avez-vous déjà été abonné à un Tolérance Zéro?
Oui,
ou,
oui. Plusieurs années.
T'as-tu aimé ça, cette expérience-là?
Moi, j'aime ça chauffer mon char. Fait que j'ai cette espèce de vilain défaut-là de des fois de, comment dire, contourner, puis en même temps, un moment donné, j'ai pris Tolérance Zéro, je me suis retrouvé dans un barrage à Québec. J'étais content en tabarnouche de dire que j'étais chaud.
Hein, bonjour, passager chaud.
Bonjour,
hein,
c'est mon char. Je chauffe pas mon char. Je suis en état d'ébriété.
Je suis un ivrogne ce soir.
Voici mon conducteur de Tolérance Zéro. J'étais tellement content. Puis dans ma tête, je me disais, ben voici une leçon. Justement, prends pas de chance. Regarde, c'est arrivé ce soir, t'es chanceux, t'as pris la bonne décision, t'sais, t'as pas à te demander, OK, là j'ai pris deux bières, je suis à combien, puis ainsi de suite. Il y a des moyens maintenant de faire en sorte. On est de plus en plus conscientisés. Personnellement, là, pour répondre à ta question, moi je m'en fous un peu que la limite soit à 0.05 ou à 0.08. Je pense qu'on a fait énormément de chemin pour conscientiser les gens, pour multiplier les alternatives puis les comportements, ce qu'on faisait pas du tout avant. Là, t'sais. À l'époque de nos parents, les policiers arrêtaient un gaucho qui zigzaguait sa route. Il voyait au volant avec sa caisse de 24 à côté, puis il disait « là, t'en prends plus, là ».
Ou il disait « va te parquer puis tu reviendras chercher ton char demain ».
Ou encore pire, juste « hey, rends-toi chez vous avant de prendre les autres ». Oui, monsieur. Je veux dire, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles.
Tu sais, on se base un peu sur une histoire qui s'est passée en 2020. C'était un motocycliste qui a été tué sur la route 148 dans la région de l'Outaouais. Puis il a été fauché par le conducteur d'un camion qui a traversé une ligne double centrale sur la route. Et selon les témoins qui ont vu l'accident, il n'y a aucune manœuvre d'évitement. Fait que visiblement, le gars qui était dans le camion, lui, il n'a pas vu pantoute la moto. Mais une heure plus tôt, il avait été intercepté par les policiers parce qu'il y avait des conducteurs qui étaient derrière ce camion-là qui disaient « il me semble qu'il y a une conduite erratique sur l'autoroute 50, le gars ». Fait que les policiers sont allés, ils l'ont arrêté, ils ont fait passer justement la fameuse ballonne et il n'a pas pété le .08.
Ouais.
Sauf que s'il avait bu une bière 2 minutes avant, ou s'il avait bu genre un gros verre de fort 2 minutes avant, c'est pas encore dans son sang, ce qui fait en sorte qu'il pètera pas le .08. Puis là, ben, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, bon, le motocycliste est décédé, puis c'est le coroner qui s'est penché là-dessus. Et le coroner ramène l'idée d'abaisser la limite à 0.05. Et là, l'opposition dit « c'est de la faute à Geneviève Guilbeault, c'est de la faute à François Bonnardel ». La question que je me pose, Denis, c'est qu'est-ce qui empêche le gouvernement de descendre ça de 0.05, de descendre ça de 0.08 à 0.05? C'est quoi les hésitations alors que tout le reste du Canada a descendu aussi?
Ils ont-tu peur que ça grogne? En même temps, ils ont pris tellement de décisions impopulaires. La CAQ, je veux dire. Pourquoi ils boqueraient là-dessus puis qu'ils ne boquent pas sur rien d'autre? Je lisais il y a quelques mois des policiers qui racontaient que des fois, ils soupçonnent des gens d'être en état d'ébriété. Puis c'est à la fin d'un chiffre, ils décident de ne pas faire les tests parce que c'est trop de paperasse, c'est trop de bureaucratie, c'est trop compliqué de reconnaître quelqu'un coupable d'une ballonne. Et les policiers disent que la façon de faire est trop complexe, trop compliquée. Est-ce que ça rajouterait de la paperasse, puis des ennuis, puis de la bureaucratie aux policiers? Je le sais pas. Mais c'est pas la première fois qu'on ramène ce débat-là sur la place publique. Puis moi, je sens pas une immense résistance à ça au Québec. Je sais pas si toi, tu files autre chose, là.
Ben moi, ce que les auditeurs me disent, là, la fameuse secte du midi, 418-971-1021, ils sont tous pour abaisser ça à 0.05.
Okay.
Puis il y a des gens qui, visiblement, sont plus informés dans le secteur de l'Ontario qui m'écrivent présentement. Entre 0.05 et 0.08, tu perds pas ton permis de conduire en Ontario, mais tu as une lourde amende.
Ouais.
Fait que si tu te fais prendre là, tu as une lourde amende. Puis si tu te fais prendre à 0.08 et plus, c'est là que tu perds ton permis. Puis là, ben, tu as du trouble avec la justice.
Parce qu'il me semble que tu n'as pas vraiment de points à perdre à partir du moment où la tendance est rendue à 0.05 un peu partout en Amérique du Nord. Fait que tu perds rien à dire. Je veux. Mais si tu on parlait d'ego.
C'est tough être contre la vertu aussi.
Ouais, mais on parlait d'ego tantôt avec Martin Saint-Louis. C'est-tu un ego mal placé de premier ministre qui dit c'est pas parce que le reste du Canada le fait que nous autres, on va le faire ouais. aussi.
Ben, le fait avec c'est... la taxe carbone, en
tant fait. Qu'à être dernier. Ben oui, ben c'est
mais
ça.
Mais s'il dit, ouais. dans cette situation-là, c'est encore plus risible.
Ouais.
Mettons que tu as de l'ego dans une situation qui se vaut le moindrement, ou ouais. dans lequel il y aurait un débat qui est pas une histoire de « il y a un risque de tuer du monde, il y a un risque de te blesser, il y a un risque de… » Je comprends, mais là…
Mais je pense que la solution passe par les technologies, puis le jour où on mettra en place un dispositif dans chaque véhicule à la grandeur de la planète qui va être en mesure d'analyser ton haleine, en mesure d'analyser ta pupille, t'as-tu bu, t'es-tu drogué? Moi, je juge que tu peux pas conduire, le char part pas, d'assaut.
C'est ça, les portes s'ouvrent pas. Aussi simple
les
que ça.
Mais là, les
ah non, portes. Tu restes dehors. Tu
mais
restes
ton
dehors.
Moteur part pas versus
attends,
les portes.
Dans le grand nord du Québec, fait moins 25. Là.
Mais toi puis moi, on a déjà les technologies pour ça. C'est juste que les constructeurs automobiles, vraisemblablement, veulent pas se lancer là-dedans parce qu'on pourrait le faire. Là.
Oui.
On a envoyé Katy Perry dans l'espace 3 secondes. Je veux dire, on est capable de mettre ça sur des chars.
J'avais regardé c'était un documentaire. En fait, c'était plus une enquête, là, mais ça se passait au Japon chez un constructeur. Puis il y avait justement ce type de procédé-là. Mais c'était 30 % de réussite. Mais ça date de peut-être 5 à 10 ans.
On est rendu ailleurs.
On est rendu pas mal ailleurs.
Mais tu sais, il y a des gens qui sont horribles. Je racontais cette histoire-là aux filles dans le retour il y a 3 ou 4 semaines. Un père qui se retrouve en cours, qui prend énormément de boissons. Puis la fin de semaine, qu'il a la garde de ses deux filles, il demande aux filles de souffler dans ballon qui est installé sur son char pour pouvoir prendre son char chaud. Des filles de 9 et 10 ans, si je me souviens bien. Des filles qui disent « on l'aime notre papa, mais on veut plus y aller ».
Mais
ça brise le cœur.
Lâche-moi parce que je vais demander un permis pour être parent. Là.
Mais tu sais, il y a toujours des moyens de contourner. Mais moi, le premier, si on m'installe ça sur mon char, je dis bravo puis merci puis j'essaye pas de tricher. Là. Mm-hmm. Si mon moteur part pas, ben c'est mon char qui me dit « Écoute, t'as pris une bière de trop, trouve un moyen, organise-toi autrement. » Le message peut pas être plus clair.
Il y a une entreprise qui est dans le monde de l'immobilier. C'est une entreprise assez reconnue là, à Québec. Ils sont à Québec et à Montréal. Puis dans leur véhicule, ils ont en location le fameux dispositif d'alcool au volant.
Oui.
C'est que tu peux louer. Là, je pense que c'est un affaire comme 90$ par mois.
Okay.
Dans tous les véhicules qui sont à l'image de l'entreprise, il y a ce dispositif.
Ah, c'est wise.
Les employés, à jeun ou pas, ils doivent absolument, quand ils commencent leur corps de travail, souffler là-dedans.
Bonne chose. Ils se feront jamais mettre dans les médias avec leur logo par responsabilité d'un de leurs employés qui n'a pas pris la bonne décision.
Je trouve ça intelligent. Je trouve que c'est une grosse dépense, mais intelligent.
Oui.
On devrait faire peut-être la même chose dans les autobus scolaires ou dans ce genre de... Tu sais, il y en a une fois de temps en temps, c'est plate, là, mais moi, dans mon temps... Chauffeur d'autobus, là...
Moi, le mien, il sentait Robin.
Ben, c'est parce qu'il nous laissait là le matin.
Oui.
Il allait au campus en face de la polyvalente. Il bougeait pas de là toute la journée, puis il reprenait son autobus à la fin de la journée. Il a pas juste pris du Pepsi, là.
Non.
Il a été 7 heures au campus, sa machine à vidéo poker. D'après moi, il a pris une coupe de tasse.
Ouais.
Puis des fois, il chantait tout seul là,
au campus
l'après-midi. Là. Non, le campus, c'était un petit dépanneur qui n'existe plus, qui était en face de la polyvalente Charles Gravel à Chicoutimi-Nord.
Tu pouvais prendre une bière au dépanneur.
Ben, il y avait des frites, il y avait des hot dogs, il y avait un paquet d'affaires.
C'est une cantine.
Ben oui, puis il y avait de la boisson.
Puis lui, il steakait chaque jour entre ses deux chiffres.
Je soupçonne. Dieu est son âme, là, il repose
rit,
en paix maintenant.
Drôle,
ouais, c'est ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mais on se questionnait en tant que gamin. Là.
Arrête, imagine.
Ben oui. Ouais, il y avait des affaires qui étaient épouvantables. Tu te souviens-tu d'une image qu'il y avait, d'une vidéo qui avait circulé sur Internet? Je pense que c'était en Pologne. C'est deux policiers qui avaient intercepté un monsieur qui était autour de 90 ans, puis il avait donné justement la fameuse ballonne pour souffler, puis le monsieur avait pris la ballonne, puis il avait essayé de boire comme si c'était une bouteille. Il est arrêté sur le champ.
Il a pas pété la ballonne, il a essayé de boire la ballonne.
Il a essayé de boire la ballonne. Ah oh non, c'était parfait. Denis, je te souhaite de passer un bel après-midi. On t'écoute avec monsieur RDS ce soir.
Oui.
Il est pas en vacances, là?
Là, il part en vacances, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui.
Il s'en va où?
Écoute, je le sais pas.
En vacances? Pendant les séries.
Oui, ben oui, mais là, il
RDS n'a pas les droits.
C'est juste TVA Sport.
Oui, c'est ça qui arrive.
Ouais. Il devait être content de partir en vacances pour ça.
Vraiment, il doit écouter les matchs là-bas. Là.
Je le sentais un peu amer, puis je le comprends, tabarnouche.
C'est sa passion.
Oui, puis t'accompagnes le Canadien pendant toute une saison, puis je sens que Pierre a de l'affection pour cette équipe-là. Ça fait une couple de fois qu'il en parle.
Et
les jeunes sont
avion.
Attachants. Ben oui, exact. Il dit c'est l'organisation la plus attachante qu'il y a eu du Canadien depuis qu'il couvre.
Ouais.
Il dit les vétérans sont agréables, les jeunes sont agréables. T'as l'impression qu'il n'y a pas de pommes pourries dans ce vestiaire-là. Fait que c'est sûr qu'il voudrait continuer à faire sa job. Et vous êtes nombreux à penser la même chose, d'ailleurs.
En même temps, quand il dit « j'étais en vacances », mais il passe sa vie dans les avions.
Ouais.
Il passe sa vie dans les hôtels. Ça fait-tu une différence quand il est en vraies vacances?
Mais j'ai l'impression qu'il fait partie de ces gens-là que s'asseoir chez eux une journée de temps, rien faire, il n'est pas capable. Il vient mal, tu sais, après 5 minutes, là, faut que je fasse de quoi.
Quand il écoute le Canadien à télé, est-ce qu'il décrit les matchs dans son salon?
Des fois, sa blonde change de pièce. Je pense qu'il est décrit avec quelques mots supplémentaires là, dans son vocabulaire.
Non, ça doit pas être ma parole.
C'est peut-être plus un « ah, calice ».
Pierre Roud, ah, calice. Ça doit être gracieux et élégant quand
même.
C'est
vers 16h, Denis?
Hein? Oui, c'était vers 16h qu'on va parler à
on
Pierre.
On t'écoute, à tantôt. Yes. Bye-bye. Marceau. Canadiens de Montréal contre les Caps ce soir à 19h. Je serai à l'écoute, Pascal. On m'a envoyé de l'information dans les dernières secondes. Oui, merci beaucoup aux auditeurs qui m'ont envoyé de l'information.
Ah, sur ta réservation pour aller dans un bar sportif avec tes gars, manger des cochonneries en écoutant le match. Ils vont être contents, je vais leur dire.
Ça va être dans le salon en Beauce chez mes gars. Puis on va avoir accès à la game de hockey pareil sur les internets.
Moi, j'essaie de t'aider pour pas parler d'affaires du type. Mais de vraiment te nuire en disant très fort et t'entendre rejoindre tes gars pour dire qu'ils sont chanceux, ils s'en vont dans un bar sportif ce soir.
Non, ils peuvent pas aller à la cage au sport parce qu'il va être trop tard. C'est l'école demain.
Ah, ben oui, t'as l'air de ce type de père-là, toi.
L'école avant le hockey, ils vont regarder certainement la première période.
Ils pourront pas écouter la game au complet?
Ben non. Samedi, oui.
Vraiment ordinaire. Yannick, c'est dimanche. Fait que...
C'est dimanche la game?
C'est pas deux jours?
Ouais, mais ça,
donc, oui, c'est ça. Je te le jure, fais-moi confiance. Là-dessus. Je sais que c'est bizarre que je demande de me faire confiance sur du hockey, mais c'est ce soir, vendredi et dimanche.
Ah, ben c'est ça. Fait qu'il y a une game vendredi, ce qui fait en sorte que oui, ce serait dimanche. Donc ce soir, 19h, Harbert Jacky ne serait pas pour l'instant de l'alignement. Il reste encore quelques minutes à Martin Saint-Louis pour changer d'idée. J'ai envoyé mon courriel. J'ai dit là, ça, c'est, cette situation-là est
inacceptable.
Bonjour,
je suis Yannick Marceau. Donc, prenez-moi au sérieux. Je vous le jure, vous pouvez vous fier sur moi.
Oui, je veux pas que mes petits gars se fassent ramasser à soir. Valérie Gaudreau, chroniqueuse au soleil, salut.
Hey, salut. Vous voyez pas
qu'il y a une game à soir? Ben oui, une game à soir. T'écoutes ça, toi, le hockey?
Ben oui.
Bon, on a une game à 19h à soir, on s'appellera.
Ah, ben oui, j'écoute ça, certains. Non, écoute, ben, je suis un petit peu redevenu à une époque, hein, mon enfance et ma prime jeunesse, alors qu'il y avait une équipe, un club qui s'appelait les Nordiques. Ouais. Dommage, j'étais grande, grande fan, mais là, c'est vrai que ces 30 dernières années, ça a été un peu une fan de série.
Oui, puis c'est du bon hockey, mais je vais te dire que de voir le Canadien se faire brasser comme on l'a vu au dernier match, je souhaite ne pas voir ça ce soir. Mais regarde, ça se peut
mais
que...
Mais ils ont du cœur, ils sont revenus de l'arrière, fait que non, ça va être une belle série, je pense.
On va se le souhaiter. Hey, qu'est-ce qui se passe avec la décote, là? C'est arrivé ça la semaine passée, puis là, encore hier, ça faisait la manchette, la fameuse décote. François Legault qui prend ça à la légère. François Legault qui, le jour de la décote, s'en va voir le Canadien de Montréal, puis tout semble bien aller, comme si c'était tout à fait normal. Il semble que je me serais gardé une petite gêne. Hein? J'aurais regardé ça avec ma petite bière à la maison, là.
Ben oui, Marc Tanguay, le chef parti libéral, chef intérimaire, qui dit moi, là, si ça avait été ce jour-là, la décote, j'aurais regardé, comme tu dis, j'aurais regardé l'enquête TV, j'aurais fermé le somme, j'aurais révisé mon budget déficitaire. Alors, c'est sûr que pourquoi, et tu as raison, c'était un peu le sens de ma chronique ce matin qui s'appelait la décote qui chicote. Ouais. C'est qu'elle continuait à chicoter, cette décote-là, après une semaine, et on se dit voyons, ça semble. Mais il faut dire que c'était une semaine, ça a sorti ça deux jours avant Vendredi Saint, avant le week-end férié de Pâques. Pendant une relâche parlementaire aussi. Fait que les oppositions, je dirais que la joute politique à l'Assemblée nationale n'avait pas véritablement eu lieu sur cette question-là. Et il faut dire qu'un peu chaque jour, on a eu de nouvelles choses. Hein? Le gouvernement, donc, une décote, on s'entend que les auditeurs, là, c'est pas demain matin, c'est pas le prix d'épicerie qui va changer demain matin, c'est pas de l'argent en moins dans vos poches systématiquement. À terme, bien sûr que ça, c'est pas positif, c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement du Québec. Ce que ça dit, en gros, c'est que s'il doit emprunter sur les marchés, il est un petit peu moins trustable. C'est-à-dire, c'est plus le super top, là, ce qu'on appelle AA-, c'est un A+, qui demeure bon, mais potentiel à terme d'avoir à payer un petit peu plus cher pour emprunter. Donc, en gros, c'est assez technique. Donc, il y a un peu de ça. Mais pourquoi on en parle? C'est que c'est le gouvernement Legault. Ça fait terriblement mal. Et là, ce que c'est en train de créer, Yannick, c'est en train de devenir un symbole d'un gouvernement dépensier qui a envoyé des chèques au monde, qui assume ces choix-là, mais où Standard & Poor's, qui est la compagnie, donc l'agence de notation, a dit on trouve que t'en as mis pas mal les infrastructures, t'as donné pas mal d'argent dans les négociations aux fonctionnaires, il y a eu des chèques dans le mal, c'est pas une gestion qui nous amène une grande confiance.
C'est le fait que autant Girard que Legault nous donnent l'impression qu'ils veulent passer rapidement à d'autres choses, comme si les Québécois oubliaient si rapidement, quoique à certains égards, ils ont pas tort. Mais, je veux dire, ça a juste pas de bon sens à quel point ils veulent faire passer ça comme si c'était léger, alors que c'est les contribuables qui, à long terme, vont devoir payer là, justement cette fameuse décote-là.
Mais certainement, puis deux choses là-dessus. C'est que tu peux vouloir être rassurant, puis M. Girard a raison, là. Hier, le ministre des Finances, Éric Girard, qui nous a dit à l'Assemblée nationale, c'est la Colombie-Britannique a été décotée, le Nouveau-Brunswick, il a perdu ce qu'il appelle une vision positive. Tu sais, il y en a. Bon, l'Ontario, c'est pas arrivé encore. On sait que M. Legault, il vise beaucoup l'Ontario, hein, il veut toujours rattraper l'Ontario. Doug Ford n'a pas présenté encore son budget, donc on verra ce que les agences de notation en feront. C'est sûr que c'est pas les seuls au monde, c'est pas les seuls au Canada. Mais une fois que tu as dit ça, ça reste que tu es décoté quand même, et ce désir de passer à autre chose, ben il est amplifié parce que on sent qu'il n'y a pas. Oui, il va y avoir une relecture. Girard n'aura pas le choix de réviser. On s'enligne. Le budget qui a été présenté là, il y a un mois, là, 13,6 milliards de déficit, 13,4, pardon. Et là, on est dans une dynamique où est-ce qu'on peut reculer un peu, revoir un peu nos devoirs et tout ça, nos calculs. Mais il y a une réalité aussi, c'est que ce même jour-là, ben, c'est le troisième lien, on y va à fond, on recule sur des projets d'hôpital, on a mis 46 millions de contrats d'ingénierie le jour même de la décote dans le troisième lien. Hier, 15 millions pour des forages aussi pour en prévision du troisième lien. Donc, c'est un peu l'image. Ça, là, c'est du bonbon emballé, je veux dire, mieux emballé qu'un chocolat de Pâques, là, pour les oppositions aussi.
Puis on a reculé aussi sur les voies réservées. Oui. Je suis content d'un côté qu'on mette l'accent sur le troisième lien, parce que j'ai l'impression que la population de Québec en majorité voulait de ce troisième lien. Mettons, la région de Québec en majorité voulait ce troisième lien-là. Mais pour ce qui est du tramway, c'est parce que nous autres, on investit de l'argent dans ce tramway-là. Là, de voir que c'est sur le point de prendre le bord. Je trouve ça particulier comme situation.
Non, mais c'est un peu là-dessus que la décote prend sa force de symbole. C'est par rapport au choix du gouvernement par rapport à quiconque, tu sais, bon, troisième lien, on n'arrête pas de dire, le gouvernement veut avancer, sauf qu'on sait que c'est quand même, si on parle politiquement, parce que la question d'origine à notre discussion, c'est de dire pourquoi une semaine après on en parle encore, c'est parce que l'opposition table là-dessus, ceux qui sont contre le troisième lien, ils voient le symbole, regarde, t'es décoté, t'as fait des mauvais choix, mais en même temps, tu vas à fond dans un projet qui va nous coûter 10 milliards. C'est un peu le paradoxe qu'on veut faire ressortir. Ouais. On peut, à l'inverse, qu'on soit pour ou contre le tramway, dire qu'il est quand même mieux engagé et il existe. N'existait pas encore le troisième.
Il a été engagé parce qu'il y a des politiciens qui ont fait des choix d'aller de l'avant dans un projet qui n'était pas dans l'acceptabilité sociale. L'affaire est que ça va coûter extrêmement cher maintenant. Peu importe ça sera quoi, la direction où on va aller. Ça va coûter cher parce qu'on a des prime négative à l'abandon d'un projet, dans le cas du tramway. Puis ça va coûter cher parce que si on continue, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses pas ficelées puis qu'on risque de trouver plein de problématiques et en plus, ça devient de plus en plus cher le construire parce que, bon, la firme qui devait le faire, en partie, augmente ses prix, le coût des matériaux et autres. On est pris dans un étau et dans un engrenage où ça va nous coûter cher. C'est quasiment se dire, qu'est-ce qui va nous coûter moins cher? L'annuler ou le faire?
Ben, moi, je pense qu'il faut arrêter de... Moi, je ne vous ai jamais caché que j'étais pour le projet de tramway. Je pense que à partir du moment où il est engagé, le faire, c'est parce que c'est de penser au montant que ça coûte. Mais l'idée, c'est à long terme. Je veux dire, c'est une ville qui profite de ça. Rappelons que l'Institut de développement urbain, là, qui n'est pas tout à fait le lobby d'extrême-gauche, là, qui ont quand même dit que il y avait des potentiels de 4 à 6 milliards d'investissements privés le long du tracé. On parle, tu sais, je veux dire, il y a tout ça là, dans la balance. Alors que l'arrêter, on fait quoi à place? Moi, j'ai très hâte d'entendre ça, maman, parce qu'un projet de SRB, ça va être des dizaines de millions, pareil, peut-être même des centaines, pour véritablement doter de voies réservées qui ont de l'allure, de refaire les voies pour des autobus, si c'est ce que propose M. Hamad. Mais tu sais, la question, c'est la première question qu'on aura à se poser sur le tramway, c'est si on recule, qui paye la facture? Mme Guilbeault a quand même bien rappelé à l'ordre la semaine dernière, M. Hamad, en disant, il y a une dizaine de jours, en disant, écoutez, là, il va falloir nous dire comment vous pensez procéder, parce qu'il y en a des pénalités. Alors, c'est sûr que, tu sais, on est dans des finances publiques difficiles. Le gouvernement vit avec des choix. À Montréal, ils ont Maisonneuve-Rosemont qui est en train de devenir là un cancer pour la CAQ. C'est pas une journée, je fais l'Assemblée nationale, il n'y a pas une période de questions où il n'est pas question de Maisonneuve-Rosemont. Il y a des écureuils dans la place, ça tombe en ruine, il y a des lits pas occupés.
Pourquoi eux, ils ont autant de poids? Tu sais, puis la question est vraiment pas de « je suis jalouse », de la question est « on réfléchit ». Mais Maisonneuve-Rosemont, l'Assemblée nationale, donc pour la province au complet, avec tous les partis, c'est un quartier, ça va pas bien. Ça mérite d'être discuté, ça mérite d'avoir du temps. Là, tu dis qu'à chaque fois qu'on t'a perdu de questions, ça prend plusieurs minutes. Comment est-ce qu'il arrive à avoir autant de temps?
Là, tu parles de l'hôpital?
Oui.
Ouais, c'est parce que les journalistes s'y sont intéressés, puis ils ont fait le tour de l'hôpital au grand complet, puis le lendemain, Paul Saint-Pierre Plamondon est allé voir ce dit hôpital-là.
Voilà.
Mais tout le monde était au courant que cet hôpital-là, c'était une catastrophe.
Ça, c'est quand même une problématique. Et c'est un projet quand même qui est pris d'assaut à l'Assemblée nationale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de projet-là, mis à part, mettons, troisième lien, tramway, pour nous. Là.
Dire, c'est un peu leur troisième lien. Mm-hmm. Pour répondre à ta question, je le ferai en deux temps, Pascal, puis c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ce projet-là devient tout à coup le symbole. C'est que premièrement, il y a là, j'ai écrit une chronique qui s'appelait « Les tuiles sur la tête de M. Dubé », il y a là un symbole. C'est un gouvernement qui trouve le système de santé tombe en ruine, il n'y a rien qui marche, puis t'as un bâtiment où rien ne marche. Donc, il y a un peu une image, là, tu sais, que ça cristallise sur le plan de l'image. Pourquoi? C'est que Maisonneuve-Rosemont, précisément, ça fait des années et que le gouvernement, il l'a annoncé. Ça, c'est comme les voies réservées, c'est comme le centre d'électrification Newton, tout ce qui est abandonné à Québec. C'est que c'est une différence de dire on le souhaite le faire un jour, on s'en reparle, puis là, tout à coup, il n'est plus dans le PQI, il n'est plus dans les priorités. Là, on le réalise. La réalité de ça, c'est que 2021, Christian Dubé a coupé un ruban. 2023, il a pas coupé un ruban, mais il a fait une annonce en disant on le tient. Il l'a refait en 2023. Pour 2025, et c'est encore reporté. Alors, je pense qu'on distingue effectivement des projets qui sont rendus loin dans les annonces. Et là, quand tu as la CAQ qui dit « Non, écoutez, c'est pas une priorité, on l'avait dit. » Non, vous l'avez annoncé. Et c'est là que les journalistes en demandent des comptes. Et c'est là, oui, je le reconnais, où un sujet en particulier peut prendre une ampleur démesurés face à d'autres. Actuellement, troisième lien, Maisonneuve-Rosemont sont un peu les symboles là, pour la CAQ.
Puis on n'a pas encore les problématiques qu'on va avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, puis peut-être même les prochaines années avec la fameuse guerre commerciale contre le gros orange l'autre bord. Là.
Tout à fait. Non, mais c'est ça. Fait que tout ce qu'on fait là, nous, tout ce dont on discute, même la décote, quoique la décote, il faut faire attention parce qu'il y a bien des affaires, là, comme j'énumérais plus tôt, qui n'ont rien à voir avec Donald Trump. Là. Tout ce qui a rapport aux chèques qui ont été envoyés en 2022, aux augmentations de salaire qui ont été données à la fonction publique, ça, je pense pas que Trump va y avoir là-dedans. Là. Mais effectivement, puis c'est ça que tout garde les cadres financiers au fédéral. Pierre Poilievre hier, Mark Carney, samedi passé, Jack Meeting samedi. Je veux dire, tout ça, on le verra. On ne le sait même pas, les tarifs, ça peut bouger, ça peut être retiré, ça peut reculer. Il peut en ajouter. Alors, alors qu'on parle de finances publiques énormément ces jours-ci, tout ça est toujours sur le grand parapluie des humeurs de M. Trump.
Tu t'en vas dans une conférence de presse dans les prochaines minutes?
Hier, je descends ici à l'Assemblée nationale avec M. Éric Duhem, qui fait ça dans une salle, évidemment, qui n'est pas la salle des parlementaires, parce que il n'est pas élu, donc c'est pas dans les salles régulières, on va à la salle des conférences de presse, là. Il sort sur la décote, là, M. Duhem, donc on m'attend à ce que M. Girard et Legault passent un mauvais quart d'heure, parce qu'on sait que les finances publiques, l'efficacité du gouvernement, c'est beaucoup dans la ligne de mire du Parti conservateur d'Éric Duhem, alors je m'attends à quelques propositions pas piquer des verres pour relever les finances publiques du Québec aux yeux de M. Duhem.
Allez-vous y parler un peu du comté d'Arthabasca?
Oui, ben c'est ça aussi qui est le fun. Hein? C'est que souvent, il y a une annonce comme telle, il y a d'autres sujets connexes. Il est encore en réflexion et je lui pose la question en ton nom, mon cher Yannick, sans faute.
OK, parce que là, moi j'ai eu... j'étais en train de regarder si c'est ouvert à tout le monde, mais dimanche, le 4 mai 2025, de 14h à 16h, on parle d'un lancement de campagne dans Arthabasca. Là.
Que le gouvernement... Que M. Legault lancerait?
Non, pour le Parti conservateur. Fait que c'est qui va se présenter? Ils ont-tu leur candidat ou c'est Éric Duhem lui-même qui va se présenter?
Oui, ouais, tu me l'apprends là. On va aller regarder ça.
Dimanche 4 mai 2025, 14h à 16h. Si tu gagnes de l'argent avec ça, tu me dois 10%.
Ben là, certain, écoute...
je te souhaite de gagner 2 piastres.
Mais 4 mai, t'as eu ça, là? Juste entre toi pis toi, là?
4 mai 2025, 14h à 16h, lancement de campagne dans Arthabasca. Ce qui reste à savoir, c'est-tu Duhem qui se lance ou si c'est un candidat de la place?
Parfait. On va questionner là-dessus.
Je répète, charge 10%.
Du salaire du futur député ou...
Non, de l'argent que tu vas faire, de la fortune que tu vas faire avec cette nouvelle...
Ah, écoute... C'est beaucoup de millions à chaque article.
Exact. Valérie Gaudreau, si personne te l'a dit aujourd'hui, ben nous autres, on te le dit, on t'aime.
Ah, je vous aime aussi.
Salut.
Il veut vraiment son 10%, là.
Bye-bye. Ben oui, ben il faut se faire de l'argent. Valérie Gaudreau, chroniqueuse au soleil à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine. Ben oui, c'est ça, le 4 mai 2025, j'ai été invité au lancement de campagne dans Arthabasca.
Chanceux, vas-tu y aller?
J'ai écrit « intéressé ».
OK, mais il faut que tu sois intéressé de façon journalistique, là.
Ben oui.
Hein, tu vas voir ce qui se passe. C'est-à-dire, tu vas aller faire plein d'autres lancements de campagne.
Tout le monde
aussi.
Sait que je suis un grand journaliste, spécialement quand la première consommation est offerte.
Tu crois les consommations?
La première.
Je suis vraiment surprise de ça.
Ben oui.
Je découvre quelqu'un...
La dernière fois que j'ai été...
Voyons le gros abreuvoir de Québec, toi, là.
Quand j'ai été dans un rassemblement libéral, il n'y avait pas de Coors Light. Fait que j'ai dit, vous ne me reverrez plus jamais en face.
OK. Fait que là, depuis, tu ne votes plus libéral.
Conservateur, dans le temps, c'était... je pense que c'était Stéphane Lachance qui avait fait sa soirée inaugurale dans le secteur de Shannon.
Oh, OK, oui. Une chance, t'en souviens?
Puis quand j'étais arrivé, ils ont dit, Marceau, Coors Light. Puis ils m'ont gagné à vie. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il va y avoir une soirée inaugurale, je vais être là.
Puis, ils t'ont-tu gagné aux élections à vie avec ça?
Non.
Parce qu'il faudrait qu'on se parle un peu là, sur ta façon de voter.
Lundi, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter au fédéral.
Mais tu fais partie de la grande majorité des gens.
Oui. Puis pourtant, j'ai fait ma boussole électorale. Là, j'ai eu certaines réponses, mais j'hésite entre le chef puis le député. T'sais, est-ce que je vais choisir le chef ou est-ce que je vais choisir le député de ma circonscription que
je veux? Ça se partage
beaucoup
là-dedans aussi, c'est les discussions que j'ai.
Mais je vais être en mesure de te dire, je pense, lundi prochain pour qui je vais voter.
Ben, je pense que tu dis-le pas.
Non, je vais le dire. Faut être honnête. Là.
Non, mais non. Dans notre... non, ouais, c'est pas ça. C'est que notre métier, on va pas là nécessairement.
Ben, moi, je vais. Moi, te le dire.
Mais dis-le après, mettons...
J'ai voté dans les dernières années.
Dis-le après l'élection.
J'ai voté plusieurs fois pour le Parti vert. Oui. J'ai voté une fois pour le Parti conservateur.
Tu le diras après l'élection.
J'ai voté...
Pour qui t'avais voté.
Okay? Comment?
Après l'élection, tu diras pour qui t'as voté.
J'ai voté pour Janvier Grondin. Janvier Grondin était la CAQ.
Louis nous attend, là, puis tantôt matin, Pierre Diolo s'en vient aussi.
Fait que lundi, on va vous dire pour qui je vais voter.
Après 51, l'élection.
On vient.
Dis que ça s'écoute bien avec ton sandwich au croton.
Ah, c'est 8 degrés sur Québec, c'est nuageux. Ce matin, je me suis levé, j'étais faire un tour dans le secteur de la Beauce, c'était plein soleil, je suis revenu à Québec, des nuages encore. Le soleil, il revient quand?
C'est toi qui vas nous dire ça.
Miss Météo, là.
Mais j'espère. Mais, de ce que je vois, là, sur ton radar, Yannick Marceau.
Sur mon radar.
Celui-là qui est sur ton écran, oui, effectivement. On va pas... Mercredi, alors mercredi, soleil-nuage, jeudi, soleil-nuage, vendredi, nuage, samedi, de la pluie, dimanche, de la pluie. Super.
Ouais. Aujourd'hui,
mais c'est cocooning, là. C'est des achats pour le printemps,
maximum
nettoyage
10.
De la voiture.
Ouais. Demain, jeudi, jour de paye. Des probabilités d'averse en après-midi.
Je vais t'assombrir ton nuage et ton ciel, Yannick.
Maximum de 10.
Mais pas un jour de paye pour toi demain. Hein.
Demain, c'est le jour de paye.
Pas pour nous.
Ben oui.
Mais non, c'était la semaine passée.
T'es mêlé, Pascal.
Nétro, t'en veux-tu?
Des nuages avec un maximum de 11. Je gage 2 piastres avec toi.
Non, non, non. Hey, je viens de récupérer mon 2 piastres dans un pari. J'avais perdu un premier pari avec toi. T'as perdu le deuxième, on était ex-écho.
J'espère que c'est le jour de paie demain, parce qu'il me reste plus rien. Moi, je perds toutes mes affaires à la bourse présentement.
C'est-tu vraiment le jour de paie? Ça n'a pas remonté, hein, toi?
Non, mais non, ça...
Même
non.
Hier, ça a été très compliqué.
Ça, moi, j'achète, là. J'achète encore. J'ai acheté mardi. C'était hier, mardi. J'ai acheté.
Ça avec quel argent t'as pas eu ta paye?
Écoute, j'emprunte. J'ai pas le choix.
Demande à tous mes
proches. J'emprunte à des gens riches.
As-tu un petit 50
comme moi? Louis Gaultier, notre chroniqueur international. T'as-tu un petit 5 000 à me passer? Louis, je te jure que je vais te le remettre un jour.
Pourquoi tu penses que je suis en studio aujourd'hui?
Ouais, pour réclamer ton dû. Tabarouette.
Hey, bonjour tout le monde.
Puis, tu la payes demain, Pascal?
Je sais pas, faut que je vérifie. Là.
Moi, je serais très surpris parce que tu as parlé de ta paye la semaine dernière quand je suis en studio.
Ah, ça se peut. Mais j'ai l'impression que c'est demain. En tout cas,
disais-tu qu'elle allait l'avoir?
Je le souhaite.
Oui.
Oh, je parie 2 piastres. Je parie 2 piastres.
C'est 2 piastres?
Mais tu m'as dit 2 piastres.
Tape là-dedans.
Ah, je vais encore perdre mon cash, gage.
Okay. Tape.
Mais au dernier pari qu'on a fait, qu'on ne va pas dire en ondes, je t'ai écrasé. C'est relire notre conversation Messenger. Salut Louis, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien.
J'étais persuadé que t'allais coucher avec. Là.
Ouais, sérieux, t'es un bâtard. Hey, un salaud, là. C'est zéro ça. Hey. C'était zéro seul point.
Ben oui.
La jaloux est un sentiment émotif.
Un ministre. C'était clair qu'un ministre.
Sois gêné de ta prestation, oui. OK? Continue. Okay.
Je te laisse faire tes recherches.
Ouais, j'allais faire mes recherches, ouais. Oui.
Louis Gaultier, comment ça va?
Hey, ça va très bien.
T'es sapé comme un prince aujourd'hui, en quelle
heure? Ben, je suis tellement de bonne humeur parce que le pape, avant de partir, il a fait son Benedicto Santis à la méchante droite à J.D. Vance.
Ah oui?
Il y a de l'espoir pour les élections canadiennes.
Mais J.D. Vance est allé rencontrer le pape et il est mort quelques minutes plus tard. Il n'y a pas de hasard, là.
Ah, écoute, le rendu là, à cet âge-là, on s'attendait à ce qu'elle... Il venait de passer 1 mois et demi à l'hôpital là, pour une double pneumonie. Là. C'est pas rien à l'âge qu'il avait. Puis c'est un accident cérébrovasculaire là, qui l'a apporté pendant la nuit. C'est tout à fait normal.
Mais je regardais, parce que moi, j'ai pas regardé les trucs de Jésus en direct, tu comprendras, là, mais le lendemain, il montrait des photos du pape, là, ses dernières heures de vie. Il avait de l'air tanné, là.
Bien, écoute, il a fait une présence le matin là, pour le Dominicus Santis, là, la prière pascale du dimanche. Puis il a fait un signe avec Barigouni, je ne sais pas quoi, parce que je comprends un peu ce que veut dire le latin. Là. Puis je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à ce soir-là, mais je me doutais ce qu'il était en train de dire.
C'est, il est mort d'un ACV dans la nuit, c'est ça?
Oui.
4 heures du matin.
Mm-hmm.
Mais il filait doux, là. Mais tu sais, c'est...
Ben, je m'étais même mis une alerte sur mon...
Oui, avec une grosse vie, ce gars-là, là.
Je m'étais mis une alerte, justement, sur... Sierra, le journal de Rome. Puis aussitôt qu'il est décédé, ça a popé sur mon téléphone vers 4h moins quart, quelque chose comme ça.
4h moins quart. Puis tu te levais à 4h moins quart pour l'écrire? Parce que quand je me suis levé, ça faisait déjà une couple d'heures que tu avais texté, puis je me suis levé vers 7h le matin.
Es-tu branché, ton chroniqueur?
Ouais. Ben, en fait, je me disais, comme d'habitude, il était pas couché à 4h du matin. C'est
plus ça. Il y en a des de même, hein?
Ah oui, ben que veux-tu?
Tu nous parles du G7 aujourd'hui.
Oui, le G7, parce que je me posais la question, les amis. Quelle importance pourrait avoir la composition, je dirais, géopolitique du G7 avec l'un de ses premiers partenaires, le Canada, qui est en élection présentement. Donc, les yeux vont être rivés vers le Canada le 8 avril, parce que lorsqu'on regarde les pays qui composent le G7, l'Italie, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis, on voit que les chefs ont changé. Et on voit qu'il y a, un amalgame de positionnement politique, c'est-à-dire on regarde le nouveau chancelier, Frédéric Merz en Allemagne, qui se positionne au centre. On voit la dame en Italie qui a continué la politique d'austérité de son prédécesseur, mais qui se ramène vers le centre. On voit Keith Stramer, qui est un centre-gauche, c'est un travailliste. En France, Bayou, qui est au centre, lui également, parce que, veut pas, le président Macron a répondu à la colère de la population et a nommé un président qui était plus au centre. Et on a vu Eddie Gundelberg, qui se trouve être l'ancien premier conseiller principal de Jean Chrétien, qui a montré la porte à Justin Trudeau pour amener des gens plus au centre à l'intérieur du Parti libéral du Canada, qui ramène le Parti libéral du Canada au centre. Et on est allé chercher un gars comme Mark Carney, qui est connu à l'international. Et c'est peut-être là le travail d'introspection qu'auront à faire les conservateurs après l'élection. Parce qu'on remarque une dispute entre les conservateurs de l'Ontario et les conservateurs de l'Ouest. Pour éviter d'avoir une scission comme on a eu dans les années 90, on a eu le Reform, on a eu le Wild Rose, puis toutes ces choses-là, est-ce qu'on va lyncher tout de suite notre chef? Ça me surprendrait parce que peu importe qui des deux chefs va devenir premier ministre, entre Carney et Poilievre, il y en a un qui va sortir de là avec un vote populaire d'au-dessus de 40 %.
Ouais,
puis si c'est dans le cas de Pierre Poilievre, ça serait encore plus important que la majorité de Brian Mulroney en 1984.
Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont avoir la patience de le garder encore.
Bien, c'est peut-être... C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire.
Une avance aussi grande, avoir mis de côté toute son équipe, se présenter, lui, à la grandeur du Canada...
Mais tous les chefs ont fait ça, Yannick. Ouais, les chefs se sont présentés uno humanum.
Mais les deux préférés, quand on regarde les sondages, là, c'était le Parti libéral puis le Parti conservateur. L'équipe du Parti conservateur, du Parti libéral, on la connaissait déjà. Ils n'ont pas changé. On a juste changé la tête du chef. C'est Mark Carney, qui semble être une tête qui plaît aux Canadiens, surtout les gens plus vieux. C'est ce que les sondages nous mentionnent. Mais de l'autre côté, qui aurait été ministre des Finances? Qui aurait été ministre des Affaires internationales? Qui aurait négocié avec Donald Trump? À chaque fois que Trump parlait, on attendait à ce que Carney réponde. Mais moi, qui est un peu plus de droite économique, je me serais attendu à avoir un Pierre Poilievre qui sorte comme un chien de garde du Canada en disant tout de suite, tu sais, puis en disant pas, ouais, mais je suis chef de l'opposition, je peux pas rien faire. Je me serais attendu à ce qu'il défende le Canada très rapidement en disant, le jour où je serai chef, il n'est pas question de vous continuer à cracher sur le Canada comme vous le faites présentement. Il l'a pas fait et il a perdu une avance qui était considérable. On était sûr du jour au lendemain que ça allait être le premier ministre du Canada avec les sondages. Louis, mais il a tout perdu ça.
Il est resté dans une ligne de pensée aussi qui était vraiment pas fluide et adapté à ce qui se passait.
Ça s'explique de deux façons, ce que vous dites. Si je vous disais que Pierre Poilievre, depuis 2 ans, était étiqueté à sa guerre viscérale contre Justin Trudeau n'est plus là.
Oui, mais c'est lui qui l'a choisi. Là. C'est lui qui disait, payait des publicités et rejette son équipe et son équipe rejette les mêmes discours.
Il a peut-être pas bien réagi. L'autre point, c'est qu'il y avait l'occasion parfaite Pierre Poilievre, dans la position où il était, d'aller reconnecter avec les conservateurs de l'Ontario, puis d'aller régler cette dispute qu'il y avait avec Doug Ford. Donc ça, c'est pas arrivé. Ça aidera pas. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il va avoir quand même un pourcentage élevé du vote populaire. On le voit, tu sais, ça se voit par les rassemblements qu'il y a eu à travers le Canada par la courte période. Donc est-ce que les conservateurs vont... parce que je le sais qu'ils lynchent assez vite un de leurs chefs. Mais est-ce que ça ne sera pas une bonne façon de le garder en place puis de faire une introspection des erreurs qu'ils ont faites pour se préparer? Puis si je vois... parce que je parle à des libéraux et je parle à des conservateurs, puis tout le monde est ouvert partout.
On veut-tu encore des politiciens de carrière, Louis?
Ben,
parce que souvent, ce que j'entends au Canada anglais, c'est Pierre Poilievre, ce qu'il a fait de sa vie, c'est uniquement que d'être un politicien.
Bien,
on n'a jamais eu la vie d'un gars comme toi ou comme mettons, je sais pas moi, certains dirigeants qui ont travaillé dans d'autres domaines, qui ont travaillé extrêmement fort, puis qu'à un moment donné, ils sont arrivés en politique pour changer les choses. Pierre Poilievre est arrivé en politique très rapidement et très jeune.
On a eu des médecins comme premier ministre, on a eu des avocats, énormément d'avocats comme premier ministre, on a eu de toutes les sortes. C'est être un politicien à la base, il faut que tu deviennes député. C'est un très, très grand don de soi. Pour qu'il l'ait fait depuis qu'il est jeune, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y en a un qui est rentré comme politicien à un très bas âge, qui s'appelle Joe Biden, qui est devenu président des États-Unis, qui aura été un politicien toute sa vie, toute sa carrière. Donc, est-ce que c'est un point qu'on doit retenir?
Mais ma question, c'est ça, parce que moi, ce que j'entends du Canada anglais, c'est Pierre Poilievre n'a été que politicien dans sa vie. Est-ce que les Canadiens, puis j'inclus le Québec, est-ce qu'on est fatigué de ça?
Peut-être que non, peut-être que oui, on ne le sait pas parce qu'il y a encore une grosse branche de la population qui ne s'est pas encore décidée, puis on va le savoir par la réponse. On va le savoir par de quelle façon les conservateurs à travers le Canada vont réagir. Est-ce que c'était un problème? Est-ce que c'est ce qu'on reproche? Est-ce que les conservateurs de l'Ontario reprochent aux conservateurs de l'Ouest de vouloir toujours pousser un de leurs candidats? Est-ce que ça serait peut-être pas le temps à ce que Caroline Mulroney embarque sur la scène fédérale?
Moi, c'est ce que j'aurais fait.
Parce qu'elle, c'est une politicienne de centre.
Ouais.
Et le Canada est en train, finalement, de se repositionner au centre parce que l'ADN politique du Canada est central.
Moi, c'est Mulroney que j'aurais opposé à Justin Trudeau, mais une fois que Justin Trudeau s'en va, c'est Mulroney que j'aurais opposé à Carney. Mais là, il y avait Poilievre qui était là, puis avec les sondages qui étaient tellement élevés, on se disait « OK, c'est fait, c'est les conservateurs qui vont prendre le Canada ».
Mais ça s'explique de la simple et unique façon. On le voit. Puis rappelez-vous, moi, je ne suis pas surpris de voir les libéraux avoir repris du poil de la bête parce que c'est toute l'ancienne gang de libérales qui a tassé la gang de Trudeau, qui a pris la place pour amener le pays vers le centre, le parti vers le centre. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont l'expérience de gagner des élections avec la peur parce que c'est ce qui est arrivé en 2021. En 2021, on est en période pandémique, les libéraux ont joué avec la peur puis tout ça, ils ont dit « bien, c'est pas pour rien, on va se servir de ça », puis on s'est servi. Là, le problème, c'est que Donald Trump, on n'entend plus parler, là, depuis deux semaines. Puis Donald Trump, là, ben, il s'est chicané avec son président de la Fed, Jerome Powell, puis ça vient d'être annoncé qu'il va le garder en poste. Puis là, on vient d'annoncer que les marchés boursiers, là, ont commencé à la hausse partout, parce qu'il semble avoir un genre d'assouplissement dans la guerre tarifaire entre les Chinois et les Américains. Donc, quand je vous disais que Donald Trump a bien beau japper, là, mais quand il mord, ça mord pas fort. Là. Parce que regardez ce qu'il a fait dans son premier trimestre, là. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé partout dans ce qu'il fait à travers le monde. Donc, on ramène plutôt ça vers
l'économie
mondiale.
La bourse a bougé.
Oui, la bourse a bougé, mais il faut regarder ça dans une enveloppe économique mondiale, ouais. Quand je vous parlais de la force économique que chaque pays doit avoir. Et c'est pour ça que je vous parle que le G7, de la façon dont la table est en train de se refaire, c'est qu'on est en train de la ramener au centre, la table, pour voir de quelle façon on peut développer notre économie pour faire place à la nouvelle force qui est en train de se construire entre les Russes, entre l'Iran et entre les Chinois. Donc, moi, je trouve intéressant ce qui se passe. Maintenant, ce que je prévois, c'est qu'on risque d'avoir, parce que quand je vois que tout le monde dit « est au vert », on risque de revoir un gouvernement minoritaire. Puis les gens, si on a un gouvernement minoritaire... 18 mois. Là, ça va être un vrai 18 mois. Puis là, ben, c'est vrai qu'on va se faire une idée très, très vite. Qu'on en aura peut-être vraiment soupé là, d'un gouvernement libéral pour une cinquième fois consécutive.
Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir. On te reparle la semaine prochaine?
Oui, mes amis.
Tu vas être sur la route, encore aux États-Unis?
Non. Peut-être ici, encore en studio.
Peut-être ici, qui sait?
Ben oui, parce qu'écoute, ça apporte quand même une certaine notoriété masculine.
Exact. Ah oui. Ça sent le mâle!
Féminine, es-tu déjà là ou tu vas me blâmer?
Pascal, qui a raison? Est-ce que c'est le jour de paye demain?
100% toi. Complètement mêlé avec le congé de Pâques. Et pourtant, je savais très bien que j'avais pas reçu une funky paye pour un party de 4 jours.
Hein? J'attends...
2 $.
Ton 2 $. Donc,
super c'est, mérité.
C'est moi qui t'ai mal indiqué, c'est que je vais te donner 2
$. Non, mais c'est correct. Non, c'est pas grave, Louis. Tu sais, là, ça, dans la vie, on est responsable de nos actions et de nos paroles. Oui. Si moi, j'ai décidé de te faire confiance là-dessus, c'est mon problème. T'as pas à payer pour moi. Puis il y a des auditeurs qui se rappelaient c'était quand notre jour de paye. Mm-hmm. Ça me fait beaucoup rire.
Oui.
Faudrait peut-être qu'on arrête d'en parler.
Ce qui est weird, là, c'est que la semaine passée, j'ai perdu un pari. En fait, j'ai failli parier parce que j'étais persuadé que je n'avais jamais dit.
Je veux pas aller là. Je suis encore en. C'est la première fois que tu m'as fâché et blessé
de même. J'ai jamais dit ça de ma vie. Puis Pascal m'a renvoyé l'extrait.
Il est venu me chercher dans les triples, Louis, là, sur quelque chose.
Pascal m'a renvoyé l'extrait.
J'étais en mission.
Je m'entendais, puis je me disais, c'est de l'intelligence artificielle, ça. C'est pas moi.
J'ai jamais été aussi fâché.
Mais j'ai failli perdre 500
piastres. Puis il a dit, une chance, j'ai pas parié, je parie à 500 piastres.
Ouais.
Il m'a dit, j'ai même pas été capable de répondre, parce que j'aurais dit, parie ta vie, man.
Fait que là, j'ai gagné 2
piastres. J'étais fâché.
Puis
là, il me ramasse 2 piastres.
Ouais. T'as un gars de même, moi. Merci, Louis.
Bonne journée.
Merci, Louis, avant que ça pète.
Marceau le midi.
Le 13h20, c'est 9 degrés sur Québec. Est-ce que ça va se réchauffer dans les prochaines heures? On va aller voir ce qui se passe côté météo. Maximum de 10, donc on a pas mal atteint notre maximum aujourd'hui.
Va faire chaud.
Minimum, faut vivre d'espoir. Le printemps s'en vient.
L'espoir fait vivre.
De moins 2, jeudi, demain. Jour de paye, Pascal. Ce sera un maximum de 10 avec un 30% de probabilité averse. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 11 degrés. Donc voilà pour ce qui est de la météo. Notre invité, c'est la première fois que je le rencontre. J'ai vu quelques-uns de ses spectacles. J'ai vu quelques-unes de ses apparitions à la télé. Je pense
tu l'as bâché en ondes très souvent aussi.
Ouais, d'habitude, je parle. C'est le lundi.
C'est le lundi que tu l'as promené. Oui, ouais. Ça me semble.
Le mardi, c'est Mike Ward. c'est un gars de main. Ils ont chacun leur jour. C'est Martin Périzzolo qui est humoriste, mais qui est aussi acteur. Je pense qu'on peut dire que tu es acteur aussi.
Oui, je suis acteur. Oui, j'ai travaillé comme acteur. Oui.
Tu fais mille et un métiers, en fait.
Ben oui, en fait, j'aurais aimé. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais aimé travailler avec mes mains.
Oui,
c'est ça que tu regrettes toute ta carrière?
Ben je regrette pas parce que c'est merveilleux. Puis j'ai voyagé à travers le Québec, puis j'ai rencontré du monde formidable. Mais aujourd'hui, pour le genre de personne que je suis, je me rends compte que avoir fait un travail manuel, ça aurait été plus pertinent pour moi. Ça aurait été mieux que mon tempérament.
Ah ouais.
C'est de fermer à job, fermer le chantier, puis là, rentrer à la maison, puis penser.
Plus réfléchir à rien.
Parce que c'est anxiogène ou parce que...
Ouais, parce que mon show s'appelle Dramatiste. Je crée des problèmes avec rien, là. Tu sais, je monter des trucs en épingle. Fait que...
Mais ça, c'est pas le showbiz, puis pour... Ben du monde qui sont dans cette sphère-là.
Dans le showbiz, tout le monde est fucké?
Ouais. Ben, nous autres, on est fuckés à base, on est à radio.
Mais je pense que ça déborde le showbiz maintenant. Je pense que tout le monde, on vit d'une époque un peu comme ça. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est
des
mauvaises nouvelles tout le temps? Ouais. On s'en fait
j'arrive
pour l'avenir.
J'arrive du Nunavik, là. J'ai jamais vu un moment aussi tranquille de toute ma vie en 31 ans, là, où les gens prennent le temps et tout ça, puis t'arrives, puis tu trouves que sur l'autoroute, ça va vite, puis d'habitude, c'est moi qui conduis vite. Fait que je le comprends. Oui, c'est l'air, mais j'ai l'impression que pour être créatif, pour faire rire, il faut être un peu dans sa tête, il faut être un petit peu bousculé par la vie.
T'sais? Oui, il faut être cassé à quelque part, faut être... J'imagine. Mais j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, en tout cas. Moi, je suis de même. C'est ça, c'est les cartes qu'on m'a données, j'essaie de dealer avec ça. Là.
Mais t'aurais aimé faire un travail de tes mains,
ouais.
Moi, finalement, t'es devenu humoriste.
Ben non, je suis devenu humoriste, mais avec le temps, j'ai travaillé de mes mains, j'ai appris à travailler avec mes mains en regardant, parce que par besoin, puis avec le recul, j'ai fait « Hey, ça aurait été vraiment mieux pour ma personne de faire ça. » Et pour le monde, je pense. J'aurais pu construire des belles affaires, tu sais, j'aurais pu...
C'est weird en sacrifice parce que des fois, on est jamais content de ce qu'on fait. On regarde tout le temps les autres, puis tu sais, des fois, je regarde les gars qui font de la toiture, là. Tu sais, les gars qui font de la toiture l'été, là, ça a l'air d'être extrêmement souffrant, mais quand ils finissent à 18h le soir, là, c'est la petite bière, après ça, c'est fini, on recommence le lendemain. Fait que, tu sais, ça a l'air relax, mais dans la vraie vie... Faire de la toiture, c'est tough, là!
Ça te scrape le corps vite.
Ouais,
chaud.
Tu dis, j'aurais aimé ça, faire ça en même temps. Il n'est pas vraiment trop tard.
Ah oui, parce que là, je commence à avoir des bobos partout. Puis, ce serait... Non, mais c'est correct. J'ai acquis mes connaissances pour me débrouiller pour faire mes petites affaires à moi.
Tu as fait le projet du gouvernement, là. Tu as été payé pendant un an pour apprendre la construction.
Mais sérieux, là. Quand j'ai,
t'es jamais allé
quand j'ai appris cette affaire-là, j'ai fait, mon Dieu, j'y vas-tu? Why not? T'sais, pourquoi pas? T'sais, j'y vas-tu faire apprendre un métier, chercher mes cartes?
Rénover mon chalet.
Ah oui. Je sais pas, c'est si surprenant.
T'as de l'air particulier à vivre, Martin.
Très.
Ah, mais... moi, je trouve qu'il expose quelque chose que tellement de gens vivent.
Il est rendu à son troisième show, mais il dit que celui-là, ce qu'il fait ce soir, là, au Théâtre Petit Champlain, c'est le premier vrai show.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le premier que je pense que je fais comme faux. C'est le premier que je fais pour moi.
Ouais.
Puis qui résonne chez les autres, tu sais, puis
pourquoi tu te permets ça maintenant? C'est quoi la différence des deux autres?
Ben c'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'avec le temps, à un moment donné, tu abandonnes des choses, tu sais, ça sert à rien, je vis pour les autres, ça sert à rien que j'essaie de plaire à tout le monde, je rends tout le monde indifférent, regarde, tout bad. je vais faire de quoi que, tu sais, puis si le monde aime pas ça, là, ça va moins faire mal, parce que moi, je vais l'aimer. Mais tu sais, quand tu fais quelque chose que t'es pas trop sûr, c'est pas tant que tu as fait beaucoup de compromis, puis là, finalement, le monde le rejette, ça fait tellement plus mal, parce que tu fais, hey, en plus, moi, je me suis rejeté là-dedans. Puis là, quand ils te rejettent, ça devient ben trop violent.
Mais je m'excuse, je vais pas aller trop loin là-dedans. Si tu veux pas répondre, t'as le
droit. C'est bien philosophique, votre émission. C'est bien deep, là. Pourquoi je peux pas juste plugger des dates puis m'en aller, là?
Mais il y a pas de trouble.
On a toujours été reconnus comme étant des grands philosophes.
Nous autres, on est des grands penseurs. Vraiment. Tu dis ça, puis je me dis, OK, donc c'était moins dangereux pour toi, puis probablement pour d'autres, de rester dans le carcan, de s'imposer quelque chose qu'on nous impose en tant qu'humoriste. Je parle pas de nous, on n'est pas des humoristes, mais
tout le monde, se fait imposer des affaires. Ouais.
Donc, ça, c'est moins épeurant, c'est moins challengeant et c'est plus confortable que de faire quelque chose qu'on a vraiment le goût, puis prendre la chance.
Mais c'est parce que c'est épeurant. Les choses que tu as vraiment le goût, c'est des choses que personne n'attend, puis c'est des choses que tu n'es même pas sûr de savoir toi-même non plus. Tu sais, il faut que tu le découvres. Fait que ça aussi, si tu l'as pas découvert, tu peux pas le faire, déjà de un. Fait que est-ce que c'était une intention à la base de pas faire ce que je voulais faire ou c'est parce que je savais pas encore vraiment qui j'étais ou, tu sais, c'est la maturité aussi, c'est le temps qui passe. T'apprends des affaires, tu tombes, tu te relèves, tu fais comme, OK, bon... tant qu'à tomber, j'aime mieux tomber dans ces souliers-là. Fait que c'est toutes ces affaires-là. C'est l'apprentissage, en fait. Puis, tu sais, je suis pas tout seul. On vit tout ça. Peu importe c'est quoi ta job, que tu travailles en construction comme je rêverais de faire ou comme humoriste. T'sais.
On parle de ton show comme étant hyper punché puis hyper drôle. Comment tu as choisi tes sujets? Puis, y a-tu des sujets que tu as décidé justement de mettre de côté parce qu'on était écœurés d'entendre parler de ça?
Mais c'est sûr qu'il y a un tri qui se fait puis un filtre qui se fait.
Ouais.
C'est sûr que quand j'entends mes collègues trop parler d'un sujet ou un sujet tendance, je boude pas mon plaisir de parler de ce sujet-là. Ben oui, en fait, je vais choisir de... Je vais mettre mon énergie ailleurs. Mais tu sais, si j'ai une bonne idée sur un sujet, je vais y aller. Parce que tu sais, trouver un angle incroyable ou que tu surprends tout le monde sur un sujet dont tout le monde parle, ça, c'est hot aussi parce que le monde font « Hey, on entend tellement parler de ça, mais jamais de cette façon-là. » Fait que ça, c'est le fun aussi, ce challenge-là. Mais j'ai filtré... dans ce show-ci, j'ai filtré mes sujets. Un, c'est les affaires que je vis. Deux, c'est personnel. Je veux que le monde apprenne sur moi. T'sais, on ne sait pas, c'est peut-être mon dernier show. Fait que tu sais... Je vais faire un show, je vais le présenter, puis je veux que le monde, quand ils sortent de la salle, ils me connaissent mieux qu'en rentrant, puis qu'ils me connaissent vraiment. Il y a des trucs vraiment intimes dans ce show-là. Puis après ça, en rodant le matériel, c'était « Est-ce que j'ai du fun à dire ça? J'ai-tu du fun à dire ça? Est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça me prend de l'énergie de dire ça? » C'est subtil, là, mais il y a des choses qu'on fait dans la vie, dans le quotidien, qui nous demandent de l'énergie, puis il y a des choses qu'on fait qui nous donnent l'énergie. Puis c'est la même chose sur scène pour un humoriste ou un artiste. Quand il y a des choses qu'on dit que ça nous... Mais on a le goût de le dire, on a le goût de parler de ça, on a le goût... Ouais, mais ça me... C'est pas vrai, c'est pas incarné, c'est pas... Je suis en représentation, j'essaie de passer un message... Fait que c'était comme, non, qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quand j'ai fini de dire, je suis content de l'avoir dit, j'ai un smile dans la face comme un petit gars. Fait que si j'ai ça, le public va le ressentir aussi, le public va l'avoir
parce
aussi.
Parce que tu as pris des sujets audacieux, là, sérieux. Je regardais ça, la fin du monde, des parents
qui
sont vieillissants. Ouais, on a tous ces parents-là.
Ouais,
l'inflation,
ouais.
L'environnement, le suicide. Ouais. C'est un beau défi que tu t'es lancé.
C'est engagé.
Oui, vraiment.
Ben, c'est engagé. Justement, ça aussi, c'est une affaire. Avant, j'essayais de... Je choisissais mes sujets parce que, tu sais, faut parler de ça. Puis... Là, je me suis dit, le but, c'est de faire rire, puis mes valeurs vont transparaître là-dedans. Après ça, ces sujets-là, c'est des sujets qu'on vit là-dedans. Tu l'as dit, je ne suis pas tout seul qu'il y a des parents qui vieillissent. On accompagne nos parents, on les voit vieillir. Peu importe à quel stade ils sont rendus, on les voit vieillir. L'environnement, la fin du monde, c'est pas vrai que je suis tout seul à sentir que les choses sont bizarres en ce moment, puis que les mauvaises nouvelles se multiplient, puis arrivent en format Costco, en paquet de 12, puis tu fais, voyons, c'est... Tu sais, un feu de forêt au New Jersey à matin, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont de la forêt au New Jersey. Tu sais, c'est comme, oui, c'est ça, mais fait, c'est pas des sujets que je suis allé chercher bien loin, tu sais, puis c'est ça, fait que...
On t'a vu à télé avec les beaux malaises, le gros show, un gars, une fille. T'es humoriste depuis plusieurs années. Qu'est-ce que t'aimes le plus? La télé, être acteur ou être sur scène directement devant ton public, comme ce soir au Petit Champlain?
Ben, tu sais, jouer à la télé, c'est super cool parce que tu le fais une fois, tu travailles fort pour bien le faire. Tu le fais une fois, puis après ça, c'est fini. T'as pas à répéter.
Ouais.
Puis si tu joues avec quelqu'un, ça, c'est le fun. C'est le fun de jouer avec un autre acteur, avec des actrices, des acteurs, puis d'être dirigé, c'est le fun. Mais c'est beaucoup d'attente, ce métier-là. T'attends qu'on t'appelle. Une fois, là, on t'appelle, tu passes une audition, là, t'attends la réponse. Là c'est, OK, c'est positif. Go, OK, là, t'attends le jour du tournage. Là, t'arrives au tournage, là, tu t'assois, t'attends toute la journée. Là, oups, t'as 10 minutes, là, c'est go. Là, après ça, t'attends, il te faut entendre parce que d'un coup, il y a une affaire dans un poêle, dans l'aliment. OK, c'est beau. Là, tu t'en vas chez vous, là, t'attends que ça passe à la TV. Puis là, on te voit plus à la TV. Ouais, non, mais j'ai tourné tout l'été. Ça, dans un an, ça va pas. Fait que c'est beaucoup d'attente. Ça me tue pas mal. La scène, je peux penser une blague ce matin puis la mettre dans mon show
c'est
ce soir.
Direct.
Ouais. Il y a quelque chose de. Je me sens plus entrepreneur. Je me rapproche de la construction, tu vois.
Parce que tu construis au fur et à mesure.
Exactement.
C'est, ouais, ton cerveau réfléchit.
Exactement.
Puis,
voilà.
Je viens de me faire écrire quelque chose.
Oui.
Vous allez peut-être me tuer.
Non.
Quoi que ça donnerait un méchant bon show. Là.
Ouais, mais je vais essayer de me débattre un peu. Là,
vas-y.
Il veut donner un show, on va en donner un. Mais Expédition Extrême,
ouais.
Ça, c'est passé.
Ouais.
Il y a eu un moment après où on t'a moins vu.
Ben,
C'était-tu un choix? Comment tu l'as vécu, ça?
Mais comment tu l'as vécu? Tu sais, quand tu deviens un mime, c'est une expérience...
sociale particulière, sûrement?
Vraiment particulière. Je parlais de violence tantôt. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement dur.
Parce que nous, on travaille avec Reg Laplanche, qui t'adore, qui te connaît, qui, tu sais, pour lui, péride, puis tout le temps. Puis il dit, moi, je reconnais pas mon chum nécessairement.
Mais moi, j'ai expliqué. Tu sais, j'ai fait le podcast de Mike pendant la pandémie. Il faisait des formules juste avec un invité en studio. Puis j'ai relater là, toute l'histoire là, du début du booking de l'émission à après l'émission, à durant son podcast.
Ri, là.
Je pense que tu n'étais pas content que je ris, c'est sûr.
Non, ça ne me dérange pas que tu aies ri parce qu'il y avait des affaires. Moi-même, quand je l'ai écouté, je trouvais ça absurde. Mais je ne vais jamais changer d'avis. Tu sais, je vais jamais changer. Les faits sont les faits. On a tourné pendant 14 heures. Ça faisait 36 heures, j'avais pas dormi. Le concept qu'ils m'ont vendu quand ils m'ont amené à l'émission, c'est une chose. Puis le concept qu'ils ont fait une fois qu'on était là, c'était une autre chose.
Si tu avais vraiment su dans quoi tu t'embarquais, tu t'aurais fait, c'est pas pour moi.
Oui, j'ai pas envie, moi, d'aller faire à semblant que je suis perdu. J'ai pas envie de faire ça. Tu sais, perdez-moi pour vrai, puis là, laissez-moi me retrouver. T'sais. C'était ça qu'on m'avait vendu. Fait que moi, j'ai un défi humain en plus là-dedans. Je ne vais pas juste faire de la télé, j'ai un défi humain, je vais grandir là-dedans. Il va falloir que je me débrouille. Finalement, c'était pas ça pantoute. Fallait que je fasse à semblant d'être perdu. Puis il fallait qu'on joue à la télévision. Puis le tournage a duré 14 heures. Il y a des choses qu'on me fait là-bas. Tu sais, on m'a ignoré. On ne répondait pas à mes questions. On faisait comme si... ça a l'air subtil. Puis je le dis, ça prend 3 secondes. Mais quand on te le fait vivre pendant 4 heures en ligne, te faire ignorer, t'es pris là-bas, ça a un impact psychologique sur toi, tu sais. Puis après ça...
T'en regrettes-tu de peut-être dit, mettons, « Hey, Martin... »
Ferme ta gueule, fais-le.
Ça va finir à un moment donné, là.
Oui, oui. Ben oui, maison. Pas... Maison.
Mais parce que le psychologique est tellement intéressant. Là,
mais je l'ai fait. C'est ça le pire, c'est que je l'ai fait aussi, tu sais. Tu sais, quand je pète ma coche, là, je t'en break. À l'époque, je fumais la cigarette, tu sais. C'est une règle, tu sais. Quand c'est la pause cigarette, là, on n'est pas en train de travailler, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui puis moi, j'étais comme juste, OK, gars, on prend une pause. OK, parfait, on prend une pause. Puis il y a quelqu'un qui est venu, tu sais. Puis là, eux autres, ils roulaient. Puis je voyais leur caméra. J'y voyais, là, en train de fumer. Puis je faisais, c'est pas grave, là. Ça fait 10 heures, là, que vous me traitez comme ça, là, tu sais. Let's go, là, tu sais. Je vais dire ce que j'ai à dire. Puis après ça, on va prendre une respiration. On va continuer le tournage comme on a fait. Puis je vais jamais cesser de le répéter, le montage... Ils ont fait du montage, tu sais, ils font... Hey, il a fallu qu'on le sorte du bois. Ils n'ont pas fallu qu'ils me sortent du bois. Ils m'ont dit, hey, check, on va sauter dans l'eau. On va te mettre un... J'avais un harnais, tu sais, pour... Tu sais, quand tu fais de l'escalade ou je sais pas trop quoi. Ils ont fait, gars, là, on va sauter dans l'eau. Ils pensaient que j'étais pour dire non. J'ai fait, parfait, on saute dans l'eau. Là, ils ont fait, oh, shit. Fait que là, ils ont fait, OK, non, à place, on va escalader la roche. Puis là...
Je voulais pousser tes limites.
Puis là, ils me font escalader la roche, puis je peux pas contrôler ma corde, tu sais. Toutes les autres contrôlent leur corde, mais là, moi, je peux pas contrôler ma corde. C'est les autres qui la contrôlent. Je fais, pourquoi? Ils font, parce que. Finalement, ils me font descendre comme si... Puis là, ils prennent ces images-là, puis ils font, on a fallu qu'ils sortent. Puis ben oui, j'ai l'air d'un touriste en train de... mais on s'entend, c'est juste descendre une roche avec une corde, là, tu sais, tu te laisses pousser, puis tu... Fait que c'est hyper violent, vivre ça, tu sais. Ça, je connais pas grands artistes qui se relèvent de ça, t'sais.
Comment t'arrives, justement, si tu arrives à avoir le laisser-aller, parce que là, tu peux nous l'expliquer, t'as la chance de nous l'expliquer, t'as eu la chance de l'expliquer dans le podcast avec Mike Ward, parce que Mike Ward t'a laissé l'expliquer, mais sinon, toi, tu fais une vidéo, tu décides, là, après le tournage, puis le fait que c'est diffusé, de dire « Salut, je veux m'expliquer ». Ça peut repartir en vrai. Tu sais, t'as plus de contrôle là-dessus.
C'est cruel en sacrament.
Oui, fait qu'il faut que t'aies un laisser-aller. Ça se fait-tu, ça?
Mais ça donne un bon troisième show. C'est ça que je peux te dire, tu sais. C'est ça que je peux te dire parce que ces affaires-là m'ont formé. C'est tomber, me relever. Ça a formé ma personnalité. Puis j'ai appris des choses sur moi. Pas juste des choses qui étaient le fun à apprendre non plus, tu sais. Pas juste des affaires qui étaient belles. Pas juste des affaires de... Ah, tu sais, j'ai... Il a fallu que je casse des morceaux pour les reconstruire parce qu'il était pas à la bonne place. Il était pas... Puis fait que c'est ça que ça fait.
Tant que tu le vis pas, tu le sais pas où est-ce que c'est brisé.
Fait que c'est ça que ça fait pour répondre à ta question. Ça donne un show dans lequel je m'épanouis puis qui a l'air d'être bien reçu, tu sais. Puis j'ai l'impression que je suis sur mon X, puis forcé d'admettre que peut-être que je serais pas sur mon X à ce point-là si j'avais pas passé par tout ça, tu sais. Fait que c'est ça ma réponse à ta question.
Non, c'est très cool.
Vraiment intéressant.
Comment t'en es venu à participer à Un gars, une fille?
J'en suis venu, écoute, j'ai harcelé Guillaume Lepage à l'époque, là, qui ont fait l'émission était déjà en ondes depuis une demi-saison, puis là, j'ai harcelé Guillaume Lepage. J'ai écrit à Guillaume Lepage, je disais, moi, je veux écrire pour cette émission-là, il me réécrit, j'ai pas envie, j'ai pas besoin. J'ai déjà toute mon équipe.
Okay,
c'est
un peu différent, là, j'ai pas besoin.
J'ai pas besoin d'auteur. Là, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, moi, gars, je vais t'envoyer. J'ai écrit 10 textes, je t'es envoie. Là.
Ah, ouais, OK.
J'ai donné le matériel.
Il a fait, mais ça sert à rien, j'ai pas besoin d'auteur. J'ai dit, je comprends, je t'entends, puis tu sais, je veux respecter ça, mais ils sont déjà partis, les textes. T'sais. Je les ai donnés à quelqu'un qui te connaît, qui va t'y remettre sûrement demain. Fait que. Je m'allais aux poubelles, tu sais, je m'en fous. Moi, il fallait que je le fasse, tu sais. Puis il a fait, OK, c'est beau, tu sais, on a raccroché, puis je me disais, hey, c'est awkward, puis tu sais, jamais, je vais entendre
ça.
Jamais parler de lui.
T'as été audacieux.
Ah, moi, j'adore ça.
Il a pris 3 textes et 10 que j'ai envoyés, puis après ça, la saison d'après, je recevais des commandes. Bon. J'étais sur
T'as contrôlé ce que tu contrôlais. Après, c'était à lui de voir s'il souhaitait
ouais,
ou pas.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça t'arrive-tu souvent? Ou c'était justement une bulle?
Non, je fais ça rarement. Avec les filles, c'est touché. Tu appelles la police d'habitude.
Mais oui, c'est non. Là, ouais.
C'est ça. Fait que non, je fais pas ça souvent.
Il y a des collègues de l'industrie qui ne l'avaient pas compris.
Oui,
ça.
Ben, bon, ouais. Pas juste dans mon industrie. Hein, non, c'est dans d'autres industries. Mais dans mon industrie, oui, clairement, il y avait du monde qui avait pas reçu le message. Mais
il aurait dû envoyer des textes à Guillaume Lepage, peut-être.
Oui, c'est ça. Il aurait dû concentrer leur énergie sur un gars de fille.
Fait que là, t'es parti sur une run de combien de temps pour tes shows? Parce que là, je vois que t'as un spectacle ce soir au Théâtre Petit Champlain. T'as même des supplémentaires qui sont annoncés. 10 septembre, 22 octobre au Cabaret à Saint-Hyacinthe. Le 3 mai, le 22 mai à la salle Maurice O'Reilly de Sherbrooke. Puis pour nous autres, à Québec, à moins que je me trompe, il y a des dates qui ont été ajoutées. Le 10 septembre au Petit Champlain et le 22 octobre 2025 aussi.
Oui.
Ça
va bien.
Québec
ça,
te réclame, là?
J'ai toujours une belle histoire avec Québec. Tu sais, Mike m'a amené faire des shows ici une trentaine d'années. Dans le temps, on jouait au Dagobert. Tu sais. C'était toute une affaire pour moi de venir jouer ici.
Avec Mario Grenier à l'époque.
Avec Mario Grenier.
Au Dagobert, c'était-tu au premier?
C'était au premier, mais il y avait du monde au deuxième étage. Puis là, quand tu faisais un bon gag, il cognait sur le plancher parce qu'il voulait que tu saches qu'il aimait ta blague. Tu sais. Fait que c'était fou ces soirées-là. C'était jam pack, c'était légendaire, puis depuis ce temps-là, moi, quand je monte faire un show à Québec, c'est avec le smile d'en face, j'ai tout le temps un gros sourire, parce que c'est ça pour moi, tu sais, Québec, c'était comme, hey, wow, tu sais, on s'en va faire, fait que ça a toujours resté, puis
qui tu penses qui va être là, dans la salle, c'est-tu des gens qui vont vouloir te découvrir, c'est-tu des gens qui sont curieux de, il est rendu où, périte,
ah, ce soir,
quoi,
qui va être là, je connais tous les noms,
finis.
Non, je connais
non,
tous les noms,
non, mais
j'ai je fais mes recherches, avant, je google tout le monde,
j'ai tout leur
sûr.
Visage,
des fois qu'il y a un tueur en série dans la gang,
d'un coup, Francis Bouillon est dans la salle,
pour vrai, je serais très heureux qu'il soit là, Francis
vous
Bouillon, on ne sait pas reparler, mais Francis Bouillon, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie. Il est vraiment, vraiment gentil. Peu importe ce que lui, de son bord, où il est, ça ne me regarde pas.
Mais blague à part, tu tes fans qui continuent. Sais-tu?
J'ai vraiment aucune idée.
Ah, mais ça va être le fun de le découvrir en tournée aussi.
Ben oui, vraiment.
Ça a-tu bien été à Montréal? Tu as fait ta première à Montréal?
Oui, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé à Montréal.
Comment ça se passe avec toi là, sur les réseaux sociaux? Martin Perizzolo, il fait-tu du TikTok? Fais-tu du Facebook, du YouTube? T'es-tu
mais
un gars qui est...
Je fais de tout parce que mon métier le demande, mais je fais ça comme un gars de 50 ans, c'est-à-dire organiquement. T'sais. Ouais. Je sais pas de... Je vais pas faire le Ice Bucket Challenge. Là.
Non. Ça, de toute manière, c'est trop tard.
Oui, non, mais ça revient, là.
Ça revient,
là. Oh! Ça revient, là. TikTok, ils ont ramené ça, là, depuis hier. Je suis là. Je suis à la page. Mais je le fais comme... tu sais, je le fais organiquement.
Tu manges pas de Tide Pods non plus?
Non, c'est ça. Tu sais, je fais dans les limites de ce que je suis confortable aussi. Tu sais, je fais dans la limite... J'ai ma mère qui j'ai besoin d'aller vider ses poubelles puis checker qu'elle a tout à manger. Tu sais, il y a des affaires qui sont plus importantes pour moi à faire que de tout le temps être la face sur les réseaux sociaux. Fait que, puis je pense que mon public s'attend pas à ça de moi. Mm-hmm. Puis c'est ça, tu sais, fait que je le fais quand j'ai du temps, quand ça donne, quand j'ai une bonne idée. Puis c'est ça.
C'est dur de naviguer là-dedans, justement, parce que, bon, les jeunes, ceux qui sortent de l'école ou...
ils poussent ça sur les réseaux sociaux.
Ça n'a pas de sens,
il y en a beaucoup qui mettent... Puis il y a beaucoup d'artistes internationaux, là, surtout dans l'humour, qui font ça. Ils mettent du crowd work un peu sur leurs réseaux sociaux. T'en fais-tu un peu, toi, dans tes shows?
Oui, j'en fais quand ça donne. Mais en même temps, tu sais, j'ai travaillé tellement fort sur un show... T'sais, pour avoir le show complet avec tous les thèmes qui suivent, avec toutes les blagues qui s'enchaînent sans que tu le sentes, qu'en ce moment, j'ai pas la chance de le faire. Le monde me dérange pas non plus pendant le show. Fait que ça donne pas, mais ben oui, j'en fais. Je parle au public. S'il arrive des affaires en rodage, t'sais, c'était fou. Là, j'avais, je sais pas, au moins une bonne trentaine d'interactions avec le public parce qu'il se passe une affaire.
Ça doit être le fun, ça doit être précieux, ça.
Ouais, c'est super le fun. Puis c'est des gags, tu sais, t'as pas besoin d'avoir des gros punch. Vu que c'est improvisé, le rire est deux fois plus fort. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est super le fun à faire.
OK, on a deux billets pour ce soir. Merci beaucoup, soit dit en passant, de faire ça pour nos auditeurs.
Merci à vous pour la tribune.
Petit Champlain. C'est à quelle heure, le show? C'est à 8h.
20h, oui.
Comment tu vas faire pour écouter la game? Tu vas-tu écouter la game avec la gang?
Écoute, je vais commencer. À... T'as 7h à soir, la game?
Repose donc ton ouais. show comme
je
on débat.
Écouter, je vais écouter le début, puis après ça, me savoir ce quel mood je rentre sur scène, tu sais. Ça va être ça.
T'es-tu okay. aussi fâché qu'Yannick? C'est comment il s'appelle?
Jack Eye,
soit pas ce jeu ce soir. Ou...
Écoute, si tu rentres trop dans les détails, là, j'essaie de ne pas m'emporter trop.
Donne-nous-en, Pierre-Aude, là.
Non.
Je suis spectateur.
On a deux billets pour le show de ce soir. Sérieusement, si vous m'écrivez, c'est parce que vous pouvez être là ce soir à 20h au Théâtre Petit Champlain pour le show de Martin Périzzolo. 418-971-1021, 418-971-1021. Juste à m'écrire Périzzolo par texto, puis je vais être en mesure de vous identifier. Eh bien, je te souhaite un bon spectacle ce soir.
C'est gentil, merci.
Ça a été un plaisir de te rencontrer. Tu es exactement le bon gars que Reg nous parle régulièrement.
Bon, ben, non, c'est... Dites bonjour à Reg, je m'ennuie de lui.
Reg est l'ami de tout le monde.
Reg est l'ami de tout le monde.
Il n'y a pas d'ennemis, lui.
Il y a... Non, vraiment pas. Ben non, hey, vraiment
mais
pas.
Mais comment veux-tu qu'il y en ait avec cette attitude-là?
Non, il est tellement fin. Il est tellement...
Moi, je me lève la nuit, je me dis, je pense que je vais essayer de le détester, ça marche pas, je me rends tout de suite.
Je pensais que tu as dit, je pense que je vais essayer de le limiter. Je vais dire,
oui, ça serait la bonne affaire. Je vais essayer d'être un Reg. Que Reg. On devrait avoir un t-shirt. Qu'est-ce que Reg ferait?
Pour bien agir en tant qu'humain.
À Expédition Extrême, j'avais eu un « Qu'est-ce que Reg ferait? » Ça serait une autre émission.
Pas ça.
Non, c'est ça. C'est sûr.
Mais pas ce que tu as fait. Pas l'émission.
Exact.
Reg, là-dedans, c'est le gars le plus pantoufleur du monde.
Ouais.
Dans ses petites affaires, avec ses petits breuvages, la même affaire, sa compote aux pommes le matin.
Ouais.
C'est ça.
Mais ça paye avoir des habitudes.
Je vois ton nom de famille, là. C'est pas tout le monde qui est capable de l'écrire comme faux, hein?
Non, ça, c'est sûr. Mais car, tu sais, faut pas que tu te casses trop la tête. Même le prononcer, les gens qui se cassent la tête, ils veulent pas le prononcer parce qu'ils veulent pas se tromper. Hey, fonce.
Mort.
Il y a des R, il y a des Z, il y a des L, gars. Il n'aura pas assez. Il n'aura trop. Vas-y, fonce, rends-toi jusqu'à la fin. Le monde va comprendre.
Comment Martin Périzzolo, ça a été un plaisir.
Un plaisir partagé, merci.
Merci beaucoup. On s'en va en musique avec Émile Bilodeau, Crise existentielle sur Boulevard.